Salut, c'est Mimi Hegel. Dans la vie, je suis créatrice de contenu indépendante sur Internet. Vous pouvez me retrouver sur Twitch, sur Instagram, sur Twitter et sur Patreon sous le même at, à savoir MYMYHGL. Vous allez écouter un débrief de série, d'abord diffusé en live Twitch. C'est pour ça que j'interagis avec le chat et que j'évoquerai parfois des éléments visuels que vous ne voyez pas. On a commencé avec House of the Dragon saison 1 en compagnie de Tequila Tex, mais il y a tellement de bonnes séries dans le monde que ce flux continue à vivre, avec toujours des invités de qualité. Bonne écoute!
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ah oui, tu t'es fait un petit verre de pinot.
Oui, tout à fait. Bonsoir Internet, 1, 2, 3, bonsoir.
Ah, ok. T'as plus ton chat? Ah si,
si
il
si,
est là.
C'est bon, c'est le temps que ça charge, tout marche bien. Bonsoir Internet, on tente un nouveau cadre ce soir, voilà. Ce qui nous permet de mieux vous voir, vous nous voyez mieux, on est moins serré. Mais pour te parler, il faut que je pivote un petit peu. On fait des tests. Comment allez-vous? On va dire bonsoir.
Bonsoir tout le monde, bonsoir les gens.
Bonsoir Fabrice déjà, welcome.
Bonsoir
back.
Mimi, oh, écoute, quel bonheur de revenir.
On peut faire un big up. Alors je te baisse un peu parce que ça me dit que tu satures un petit peu, mais après on va dire je silencie les hommes et tout.
Arrête de silencier les hommes, espèce de jeune femme misandre.
C'est vrai. Un gros big up à Mathias et Alix qui t'ont remplacé.
Mais oui.
Levé pour 2 épisodes d'affilée, mais ravi de t'avoir à nouveau à ma table et dans ce débrief de Succession pour un épisode qui, comme tous les épisodes de Succession, finalement, on a beaucoup
est extraordinaire.
Oui, c'est quand même la meilleure série. Bonjour Corinne, bonjour Justin, bonjour Gilles, bonjour Steele Marty, bonjour Vince, bonjour Madame Volovitz.
Bonjour
Alexou, bonjour Mintara, bonjour Ezoc, bonjour Zmut, bonjour Stories et bonjour Marina et bonjour aux lurkers et lurkeuses qui ne disent pas bonjour dans le chat.
N'hésitez pas à dire bonjour.
Bonjour French Fry et Lardon Trop Cuit qui vont plutôt bien ensemble du coup. Parce
oui,
que ça fait des frites
ça
avec des
bien.
Petits lardons croustillants là, c'est sympa. Et bonjour Codatatouille et Asphobel et à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Comment vas-tu Fabrice?
Ça va super.
As-tu profité de ces vacances qui t'ont gardé loin de moi et de la famille Roy?
Tout à fait, mais j'étais alors loin de toi, mais pas loin de la famille Roy, parce que...
tu les aimes plus que moi. Bonjour Navo.
Ah, salut
bonjour.
Navo.
Et merci beaucoup à Madame Volovitz pour le resub. Merci beaucoup.
Quelle joie.
On va parler du sub goal dans un instant, parce que j'ai une bonne nouvelle. Grâce à Fabrice, voilà.
Ah oui, je l'ai.
Là.
Oui, je l'ai. Donc ouais, j'ai suivi bien sûr. J'étais là dès le lundi matin, 7h du mat.
Des fois plus tôt que moi, hein,
oui.
Alors que c'est un peu mon travail du coup maintenant
oui.
De regarder Succession, trop dur ma vie.
Mais parce que c'est...
J'étais plus chaud que moi.
C'est les playoffs NBA.
Ah.
Et donc, je me laisse réveiller par la nature et le soleil à 6h du mat. Et donc, je regarde le match de la nuit entre 6h et 7h du mat. Et après, le lundi, bam!
Est-ce que tu dirais qu'il y a plus de tension dans Succession ou dans les playoffs de la NBA?
Alors, ça dépend des matchs, mais ça dépend des matchs, ça dépend des épisodes. Mais franchement, on est quand même pas mal
en
termes de tension dans Succession, quoi.
Ça réveille bien le lundi matin, un bon petit Succession avec le café. Celui de la semaine dernière, je l'ai regardé, j'étais en vacances. On avait bu des ginto la veille, j'étais pas en gueule d'homme, mais genre un peu vaseuse. Et vraiment, genre au début, ça s'ouvre avec Logan, et j'étais là...
Attends, ah oui.
Je vais me refaire un café.
Oui,
parce que vraiment, le gadget est mort. Je sais pas où on est là. Et après, je t'ai envoyé une photo de moi en PLS.
Oui.
Car Kendall est monté sur scène et
oui.
J'avais vraiment peur que ça se passe
big,
mal.
Big, chose. Big,
oui,
chose.
Big shows.
Big, 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 big shows. Juste à chaque fois, ils arrivent à mettre les trois big shows de trop
ouais.
Pour que ça soit le malaise.
Big
c'est
mental
bien.
Breakdown. Bon, pourquoi tous les Twitch shows que je suis regardent la NBA, Lardon Trop Cuit? Eh bien, bonne question.
Parce que le basket, c'est bien, par exemple.
Ouais.
Voilà.
je suis sûre que le basket, le meilleur sport. C'est super. Après, voilà, on est ravis de pouvoir dire que tu es de nouveau un Twitchos, puisque tu vas revenir un peu plus sur ta chaîne Twitch,
oui,
personnelle.
C'est mon objectif.
Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch
follow.
De Fabrice Florent. Je vous
mets
la commande dans le chat. Ouais, comme ça, alors vous avez son Linktree où il y a... Non, vous avez son site où il y a tout. Et comme ça, vous pouvez suivre. C'est Fabrice Florent sur Twitch ou c'est
Fabrice
Florent ?
Ouais, c'est Florent. Fabrice Florent.
Ok, je vais faire une dédicace. Différence de niveau de son entre les micros, Fab est plus haut. Pour une fois,
bah,
c'est pas
donc.
Moi. Merci Navo.
Merci Navo.
Fabrice Florent, on a dit. Hop. Voilà, j'ai fait une dédicace dans le chat, comme ça vous pouvez aller follow Fabrice
N'hésitez
et
pas.
Avoir des nouvelles sur
on
sa
va,
chaîne.
On va refaire des lives avec Mimi aussi.
Oui, on va pas s'arrêter
on
à
a deux, trois, on a deux, trois sujets à faire ensemble sur ma chaîne.
Tout à fait. Et ça va être... Alors, on parle d'émotions, on parle de famille, etc. dans ces débriefs successions, mais je pense qu'on peut dire qu'on ira un peu plus deep,
oui.
toi et moi, dans nos vies respectives,
oui.
que dans celle de la famille Roy, qui mérite quand même qu'on en parle 3 heures par mardi, donc c'est super. Très bonne nouvelle. Merci Fabrice. Fabrice m'a prêté, donc vous voyez, ici, il y a des sub goals et des follow goals qui tournent. On a un sub goal qui s'appelle les stream cuisine, parce que pour faire des stream cuisine, il me faut un micro spécial. Et ce micro spécial, il faut que je l'achète. J'ai pas encore de quoi l'acheter, donc n'hésitez pas à sub à la chaîne ou à vous abonner à mon Patreon. Mais en attendant que vous fassiez ça, Fabrice m'a prêté les micros que je veux acheter, ces petits micros Rode, qui vont me permettre de faire des tests et de faire des premiers si ça marche, stream cuisine, pour vous donner envie de financer la suite, parce qu'un jour, il faudra que je rende ces petits micros à Fabrice, car c'est son matériel professionnel et personnel. Mais en attendant, on pourra déjà tester comment ça rend, comment ça marche. Et autre grande nouvelle, plus proche de vous pour le coup, on va bien pouvoir streamer Zelda très fort ce vendredi, puisqu'on a fait tout à l'heure les tests de la carte de capture avec Nodus, mon amoureux, et ça s'est très bien passé. Écoutez, la Switch tourne à fond et... J'ai eu une réponse, je vais normalement avoir le jeu à temps. Donc on est ravis. A priori, vendredi, on stream Zelda fort. On sera tous et toutes en train de streamer Zelda fort. Mais si vous voulez du Zelda vu par Mimi, qui parfois se trompe de touche, mais passe quand même un bon moment, vous pourrez être sur mon canapé avec moi.
Mais toi, t'es plutôt du genre à faire toutes les quêtes, enfin, ne pas faire les quêtes, c'est-à-dire plutôt...
Je fais moins la quête principale que les... Non, j'adore les quêtes secondaires. La quête principale, en vrai, Ganon, je m'en fous un peu. J'ai jamais fini Breath of the Wild parce que je m'en fous de la fin, mais j'aime bien explorer, découvrir le monde et, effectivement, cuisiner. La cuisine dans Breath... J'ai la musique de la cuisine dans la tête quand j'en parle. Ça sautille un peu et tout. Donc ouais, on va faire tous les plats, ça c'est clair, et probablement se perdre pas mal, mais c'est pas grave. C'est un super moment.
Apparemment, ils ont vraiment... upgrader tous les trucs, justement, cuisine et tout, c'est ça, j'ai vu
fabrication et crafting, oui. Cuisine aussi. En fait, tu peux coller, par exemple, tu peux coller un champignon à ton bouclier et c'est un champignon qui explose des spores. Et du coup, quand tu te fais attaquer, ça fait un genre de bombe de fumée qui aveugle l'ennemi et tu peux l'attaquer du coup en surprise.
Incroyable.
Donc, il y a plein de choses rigolotes à faire. Donc, on aura des stream cuisine, si Dieu le veut, mais on a maintenant des micros, donc tout devrait bien se passer. Et du gros Zelda sa mère, vendredi, ça va être trop bien. Fabrice, qu'as-tu pensé des deux épisodes de Succession dont on n'a pas parlé ensemble, rapidement, à savoir le 5, l'épisode en Norvège avec les Suédois, et le 6, l'épisode à Los Angeles, avec beaucoup de licenciements et peu de nuages, malheureusement.
Pour moi, on est en train de voir ce qui se passe après Logan, donc, et surtout de voir à quel point ses enfants sont nuls, et qu'en fait, ils...
Boys, you are not good at this.
Ils n'arrivent pas à fill in dans les choses à remplir les chaussures de Logan, et c'est terrible en fait parce que je comprends, mais c'est terrible de voir à quel point ils font tout pour faire comme papa tout en n'étant pas papa, parce qu'en fait papa c'est un tueur et c'est un requin, et peut-être Shiv a ça en elle, on va voir. Mais en tout cas
d'aucuns disent que c'est celle qui est le plus comme son père,
bien sûr, et Kendall et Roman sont clairement pas au niveau. Et ils font littéralement n'importe quoi. Alors, on a vu une petite éclaircie avec cette fameuse présentation.
Living Plus. Not forever, but more forever.
Qui a voulu tenter de recréer Junipero, là.
Sans Junipero dans
Black Mirror. Mais apparemment, ça va pas suffire. C'est ce qu'on comprend dans cet épisode. C'est qu'ils vont pas réussir à éviter la vente. Grâce au petit boost que ça a eu
à la revalorisation
sur la bourse,
de l'action. Donc, mais Kendall ne s'est pas crashé en plein vol comme tout le monde, à la fois le public et les personnages de la série le craignaient. Donc on est sur un win pour le number one boy,
oui.
comme il l'a tracé dans le sable.
Oui.
Et est-ce que t'as kiffé cet épisode 7?
Écoute, ouais, j'ai kiffé. Encore une fois, pour moi, c'est vraiment On est vraiment sur une saison, je trouve, où il y a, c'est des huis clos à chaque fois. Enfin, en tout cas, pour la plus grande partie de cet épisode, encore une fois, où il y a que, il y a énormément de discussions qui partent dans tous les sens et on finit par, avancer vraiment dans la relation entre les personnages. Et moi, c'est vraiment ce que je préfère. Donc, j'ai vraiment kiffé, quoi. On comprend aussi. Enfin, moi, ce qui m'a un peu touché, c'est que je me suis rendu compte à quel point, sans doute, Connor était celui qui avait trouvé la meilleure relation. Et en fait, c'est quand même, de dire ça, c'est quand même incroyable si tu reviens genre 3-4 ans en arrière.
Il a la meilleure histoire d'amour, il a la meilleure vie parce que il est pas en train de courir après l'approbation d'un homme qui de toute façon maintenant est décédé, donc on ne pourra plus jamais l'avoir. Il a des rêves qui sont peut-être en train de se concrétiser en termes de laisser sa trace dans l'histoire. Et bah, dans cet épisode, il dit qu'il aime bien aller au funérarium où il y a son père et il dit il est pas du tout là. C'est plutôt rassurant.
Génial ce moment. Putain.
Incroyable le punchline de Connor qui est. Mais il y avait une théorie, on en a parlé, je crois, avec Alix dans la. Je crois que c'est avec Alix qu'on en a parlé dans le dernier débrief. Il y avait une théorie comme quoi chaque saison, c'est un peu la saison d'un enfant, d'un des enfants. Et du coup, bah, il restait un peu plus que Connor. Bon, c'est pas vraiment la saison de Connor, mais c'est en vrai un peu dans les quatre enfants. C'est celui qui, dans cette saison, s'en sort le mieux et trouve le mieux sa paix avec ce qui se passe, quoi. Même s'il a pas le plus de temps d'intrigue.
Ouais, et. Quoi. Moi, j'ai adoré voir comment il tient tête, tu vois, à la pression que Roman lui met. En plus, il est désagréable, Roman. Enfin,
il est insultant. Roman est, il snap, quoi.
Roman, il est parti en couille, en fait, depuis la mort de son père, où c'était, ça a été très cool en début de saison, où ils étaient un peu.
Ils bossaient ensemble. Ouais, The 100, qui se souvient?
C'est ça. il y a eu encore un épisode où ils étaient main dans la main, et, à la mort de Logan, mais après, c'était terminé. Et là, il est devenu insupportable. Et je voyais un commentaire sur l'internet qui disait c'est ouf à quel point plus que jamais cette saison est misogyne as fuck et que en fait ils sont tous insupportables avec les femmes et en fait les femmes se débattent et se laissent pas faire, donc c'est trop cool, mais c'est dingue aussi à quel point ils sont, enfin il y en a pas une qui échappe à toutes les conneries que Roman, que Kendall peut dire. Kendall, il est affreux avec Rava, avec son ex-femme.
Enfin, oui, j'allais dire, peut-être que celui qui jusqu'ici, dans cette saison, y avait échappé, c'est Kendall, qui est poli avec, c'est un de ceux qui est poli avec le personnel. Il dit souvent bonjour et merci aux gens qui sont pas des vraies personnes, selon son père. Il a une bonne relation avec Jess, son assistante. Enfin, clairement, elle sait qu'il est fou, mais il n'y a jamais le moindre truc déplacé. Mais heureusement, ils nous ont ramené son ex-femme dans cet épisode pour nous rappeler que Kendall n'est pas à la hauteur.
Quel gros con.
Dans plein de rôles différents qu'il veut jouer dans la société et par rapport à ce qu'il projette comme image de lui-même, bah en fait.
Parce que c'est lui, il se casse le cul pour ses enfants justement, c'est pour sauver le monde.
On va en parler, je pense pas que c'est pour eux. Oui, et Squazam dans le chat dit Madson aussi, bien sûr. Pour le coup, la misogynie crasse du personnage, je suis contente qu'elle soit aussi assumée.
Exactement.
Et que ce soit pas caché sous le charme de, bah en plus d'Alexander Skarsgård et tout. C'est vraiment, il est répugnant, c'est un connard. Et. Il est juste misogyne, mais bêtement. Enfin, tu vois, il est bêtement nul. Quoi. C'est pas un génie. Enfin, mais c'est un peu tout le propos aussi de cet épisode. C'est pas un génie. C'est juste un mec naze comme il y en a plein. Et parfois, il y en a qui réussissent à être milliardaires. Quoi.
Et c'est. Moi, j'ai trouvé ça génial le parallèle qu'il y a entre les crasses que fait Madson et finalement les crasses que la famille Roy fait. Parce que, effectivement, il y a tout ce truc avec Ebba dont on va parler. Mais en même temps, en parallèle, il y a Roman qui a fait de la merde avec Jerry et qui là s'en prend, enfin, se fait mettre le nez dans le caca,
épisode,
là.
Hein.
Et là où il ment sur les chiffres de l'Inde, l'autre trou du cul, là, avec il faudrait construire deux Indes.
Incroyable. Incroyable take de Lucas Madson. Non, ça aurait du sens s'il y avait deux Indes.
Les autres, ils fanfaronnent, mais en fait, ils ont fait exactement la même chose dans l'épisode dernier, en gonflant les chiffres de façon astronomique pour Living Plus. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir. En fait, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, quoi. Et je trouve ça intéressant aussi de voir à quel point, sur cette. Ça m'intéresse vraiment de voir un petit peu sur les épisodes à venir, à quel point Kendall va se. Loganiser, je voyais quelqu'un qui disait que Kendall était en train de se loganiser, mais.
Bah, Navo dit, j'ai l'impression qu'il montre malgré tout que Kendall est le plus Logan-like.
Bien sûr. Et bien sûr, c'est évident, parce qu'en fait, c'était lui le fameux.
C'est lui aussi qui a été formé,
qui a été formé.
Pour le devenir par Logan, à la fois niveau business et niveau perso. Mais est-ce qu'il sera à la hauteur? On va en parler. Écoutez. On va passer officiellement au débrief full spoiler de cet épisode 7 de Succession saison 4. Donc si vous n'êtes pas à jour, merci d'avoir été là, à bientôt. Si vous êtes à jour, restez avec nous. On va se passer un petit générique et on arrive. Incroyable. Pour celles et ceux dans le chat qui notent comme les autres que la cam gigote un peu, en effet, j'ai toujours un pied de cam qui est articulé, ce qui est bien, mais qui gigote, ce qui est moins bien. On va essayer de moins taper sur la table et c'est parler avec nos coudes dessus. Mais je note et voilà, on va continuer à faire des tests et on finira par trouver.
Abonnez-vous, donnez des sous, oui. Afin que Mimi puisse acheter un pied digne de ce nom.
Tout à fait, merci beaucoup. Cet épisode s'ouvre sur une scène rare de réveil déjà de personnages principaux et sur un petit déjeuner, alors pas préparé par Tom, faut pas pousser quand même, on va pas faire le travail des domestiques, mais amené et peaufiné par Tom avec un cadeau à Shiv, apparemment très détendu avec l'idée de passer la nuit de nouveau à la maison. Qu'est-ce que tu penses de cette relation Shiv et Tom qui s'est renouée dans l'épisode littéralement précédent, et qu'est-ce que t'as pensé de cette scène et bien sûr du cadeau que Tom choisit d'offrir à sa chère et tendre?
Écoute, déjà, c'est ouf parce que il l'appelle My Little Rasmussen. Je sais pas si t'as capté, mais en fait, moi, dans la traduction sur Amazon Prime, parce que je paye le Pass Warner, il l'appelle.
Comme nous tous et tout.
Oui, bien
ici.
Sûr.
Je ne vois pas de quoi tu parles.
C'est traduit par Ma Petite Reine. En fait, okay. Je me dis Rasmussen, ça me dit un truc et tout. Qu'est-ce que c'est? Je suis allé taper. Et en fait, Rasmussen, je crois que c'est un double. C'est d'un double sens, parce que Rasmussen, c'est une boîte de sondage.
Okay. Ah oui, parce
qu'il lui amène... Elle est en train de regarder les sondages à ce moment-là. Mais c'est aussi l'épouse d'un roi du Danemark qui s'appelle Louise Rasmussen. Mmh. Et en fait, c'est ouf parce que... je ne sais pas si c'est fait exprès. Je ne sais pas. Mais de son union avec Frédéric, donc le roi du Danemark, elle donna naissance à une fille en 1851 dont la filiation fut tenue secrète avec la complicité de la famille royale britannique.
Ok, nouvelle théorie, vous l'avez. La fille de Tom va naître et il ne saura pas, et personne ne saura que c'est la fille de Tom. Parce que c'est, c'est la fille de Greg et Fabrice.
Alors,
on a arrêté ces bêtises ou pas?
Quand j'ai vu ça, je me suis dit, forcément, c'est peut-être parce que c'est la fille de Greg. Mais pardon, non, c'est pas.
je pète mon crâne. Je n'en peux plus.
Mais j'ai entendu dans un podcast. Calomnie. Qu'il y a un auteur qui a dit qu'effectivement c'était la fille de Tom et qui avait donc ruiné définitivement cette géniale théorie.
C'est confirmed. Voilà, on peut arrêter avec... C'est n'importe quoi.
Ceci dit, désolé, mais Rasmussen...
She's not pregnant.
Il y avait moyen.
Non, mais oui, je vois. Mais non, ça ne va pas être ça. Et Greg is no roi du Danemark. Calmons-nous.
Oui.
À part ça, du coup, cette relation Shiv et Tom qui se redéploie, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'y crois, déjà?
En fait, sur le moment, je me dis que c'est à peu près obligé qu'ils se remettent ensemble pour mieux se flinguer. Et en fait, on le voit tout de suite, puisqu'il lui offre ce fameux cadeau. Mmh. Je me suis dit, est-ce que Shiv est par hasard du signe astrologique du scorpion?
Peut-être que c'est une November Kid comme nous deux.
Voilà, on est tous les deux
Peut-être
scorpions.
Peut-être que ça lui irait bien.
Peut-être, mais apparemment pas du tout, parce que Shiv, elle ne comprend pas sur le moment.
Ou alors, elle n'est pas astrologie, mais elle est vraiment en mode, c'est quoi ta merde là?
Et pas du tout, je suis Sagittaire. Et c'est terrible.
Il
l'a
mis dans une belle boîte et tout machin.
Mais t'as vu l'écran magnifique là et enfin bon.
Bah au début elle est hypée hein. Elle est là ouh et après elle fait ah.
Un scorpion, pourquoi un scorpion? Et en fait c'est terrible parce que vraiment ça. Mais pour moi il y a eu plein de moments comme ça où Tom il exprime son désarroi et en fait, il accepte en même temps la nature profonde de sa femme qui est, en fait, en gros, tu piques, quoi. Tu peux pas faire autrement que piquer. J'imagine que c'est.
Pique, il dit aussi.
Ouais. J'imagine que c'est une ref aussi à cette fameuse fable de la, du scorpion et de la grenouille. Si vous l'avez pas, je vous invite à aller chercher. Mais en gros.
Non, on va en parler.
J'ai pas envie de la raconter, ça me saoule, mais bref.
D'accord, bon.
Je suis fatigué.
Mais non, mais finis ton.
Je suis fatigué,
c'est le début du live, frère.
Je suis fatigué comme Tom.
Le gars Joe, il est tired, il est épuisé, il a pas pris son magnésium de tout l'hiver.
Mais surtout,
là,
surtout, il a ken toute la nuit.
Il a ken toute la nuit, il a fait 18 fuseaux horaires différents en 4 jours. Mm. Il a pris plusieurs vols internationaux, dont un avec Logan qui est mort dedans.
Est mort.
Et lui, il était dans l'avion.
Oui.
Enfin, ouais, le gars, il a pas fait assez de grasse mat. Et c'est le chef de Fox News à la veille de l'élection de potentiellement donc, Donald Trump.
Il en a gros.
Il en a gros.
On peut comprendre qu'il en est gros.
Et Shiv, apparemment, elle veut bounce on that D toute la nuit. Donc, ouais, Tom est fatigué. Voilà. Il veut pas prendre de café parce que sinon, il dormira pas bien. Non. Mais donc, pourquoi un scorpion? C'est la fable de Ésope sur, effectivement, un scorpion et une grenouille qui veulent traverser un cours d'eau. Et la grenouille peut porter le scorpion sur son dos pour qu'il flotte, mais elle lui dit « bah non, mais tu vas me piquer si je fais ça ». Et le scorpion, il dit « bah non, je vais pas te piquer, puisque si je te pique, on va mourir tous les deux ». Et il commence à traverser, et au milieu de la traversée, le scorpion pique la grenouille, et la grenouille commence à couler en lui disant « mais pourquoi t'as fait ça ?» Et le scorpion dit « je suis un scorpion, tu aurais dû savoir que j'allais piquer ».
C'est sa nature profonde.
Morale, quand les gens te montrent qui ils sont, il faut les croire.
Toujours.
Et Shiv, c'est une meuf qui pique.
C'est une grande leçon, parce qu'à plusieurs reprises, Shiv aussi lui dit clairement à Tom sa nature profonde, qui elle est dans les saisons précédentes. Et
ah oui.
Elle lui montre
clairement... I love you, but I don't love you.
Exactement. Et en fait, le pauvre Tom, est-ce que c'est par... je sais pas, par une forme de naïveté ou aussi parce que peut-être il se dit bon bah ok elle est comme ça mais je vais finir par réussir à la voir, à lui montrer à quel point je l'aime et tout, parce qu'en fait en vrai il est ultra prévenant, il est ultra enfin il est cool, il est une love,
il va
hein.
par lui dire hein, qu'il lui a donné beaucoup d'affection et de validation et je pense qu'il y a il y a plus d'amour côté Tom que Shiv, parce que comme il lui dit dans cet épisode et comme on le répète depuis le début de ce podcast, peut-être que les enfants Roy sont incapables d'aimer, même Connor pour le coup, parce que c'est pas normal non plus sa relation avec Will, on va pas se mentir, c'est...
Bien sûr.
Ça reste très transactionnel, quoi.
Bah oui.
Donc, elle peut pas l'aimer, et Tom est comme toujours le plus sincère des deux. Mais lui, il est prêt à regarder en face leur relation, et aussi, bah, lui, il l'aime sincèrement, et elle est pas prête parce qu'elle est pas prête à regarder en face qui elle est, elle, quoi.
Bah, oui, à la fin dans le balcon, la fameuse scène du balcon dont on parlera plus tard, je crois qu'elle la regarde pas mal en face.
Elle est un peu, elle a plus le choix, mais elle a pas envie d'y aller, quoi, à la base. Oui. Je pense pas qu'elle s'attendait à ce genre de débat. Rava is back.
Mais oui.
Kendall a une ex-femme et des enfants qui se souvient. Est-ce que tu pensais, je sais plus si on avait parlé de, autant Marchia, je sais qu'on en avait bien parlé, mais je sais même plus si on avait mentionné le nom de Rava dans tout ce débrief.
Peut-être au moment de, on s'est dit que peut-être elle reviendrait au moment des funérailles.
Ah oui, parce que du coup, les petits-enfants, peut-être ils viendront pour l'enterrement de leur papy.
Mais c'est vrai qu'on n'a pas vu les enfants cette saison, je crois, hein. Si je
non,
me trompe pas.
Non, pas du tout. La dernière fois qu'on les a vus, c'est quand Kendall est presque mort.
Sur le point de mourir.
Dans la piscine, là. Au mariage de sa mère, du coup, c'est pour ça qu'ils étaient là.
Et c'est vrai que j'ai trouvé que cette scène était intéressante parce que elle est passée de OK, en fait, je veux plus jamais te voir à faisons en sorte d'être des bons coparents. Ce qui est quand même.
Elle était à son anniversaire dans la saison précédente et la fameuse anniversaire horrible où Kendall il finit en dépression, il trouve pas le cadeau de ses gamins, all bangers all the time. Roman il le pousse par terre, il tombe devant tout le monde, horrible. Il y avait Rava qui était là avec un date et ils avaient une conversation un peu hostilo-cordiale au bord du bar et à un moment elle faisait un peu une réflexion en mode bah je vois que t'as pas du tout fait un truc démesuré pour tes 40 ans, tu vois. Et il est là, bah j'imagine que toi t'aurais préféré un dîner avec du vin et des amis à la maison. Et elle est là, oui, je pense que ça a l'air sympa. Et c'est tout. Donc c'est de la dernière fois qu'on a vu Rava interagir avec Kendall.
Incroyable. Et donc, bah, elle lui raconte, Rava, que sa fille a des petits soucis, notamment en rapport avec le fait que bah, son père dirige ATN, qui est quand même, comme elle dit, un média raciste.
Oui.
Et je ne sais pas comment trop tu l'as interprété, mais elle est à la fois, j'ai la sensation qu'elle se sent à la fois menacée et donc un peu parano. Et en même temps, ça lui fait du bien parce qu'il y a une sorte de mouvement anti-ATN dans sa classe, ce qui est cool pour elle parce qu'il y a un côté ok, c'est sympa pour moi parce que ça supporte un petit peu le fait que elle est pas très fière en fait de ce que fait son père.
Non, c'est compliqué.
Et je crois que Kendall a du mal à accepter ça, quoi.
Oui, et ça va être un thème finalement assez récurrent cet épisode, en quoi être le chef d'une telle entreprise, ça finit par colorer l'opinion que les gens ont de toi et de ce que tu fais. Il y a plusieurs personnages dans cet épisode qui disent voilà, ma famille déteste Mencken, ma famille est pas à l'aise avec les dans l'épisode de Los Angeles, il y avait
Joy.
Les talents du cinéma veulent pas bosser avec nous parce qu'on est trumpiste finalement quoi. Donc parce qu'on est Fox News, donc ça reste un sujet en lame de fond. Moi ce que j'ai compris de l'interaction avec Rava et de ce qui s'est passé avec la fille de Kendall, c'est pas qu'elle a été agressée, mais dites-moi dans le chat parce que je suis pas sûre d'avoir raison. C'est pas qu'elle a été agressée parce que c'est la fille de Kendall Roy, c'est qu'elle a été agressée parce qu'elle est racisée et qu'elle a été agressée par un mec qui avait un t-shirt avec le portrait de Ravenhead, donc le présentateur nazi de ATN, mais que c'était pas forcément en lien avec c'est la fille de qui. Mais qu'en gros, c'est une gamine racisée qui a été victime d'une attaque raciste de type rentre dans ton pays, quoi. Et effectivement, Rava, elle dit que dans son lycée, je pense, parce qu'elle a 15-16 ans, il y a un mouvement anti-ATN, mais que pour le coup, le fait qu'elle soit la fille de Kendall, ça rend la chose un petit peu compliquée. Et alors, ce que j'ai entendu dans les... En fait, on a très peu vu la fille de Kendall et, oui, et Rava. On a un peu plus vu le fils, notamment parce qu'il se prend une droite par Logan. J'avais pas identifié qu'elle est... Apparemment, elle est d'origine d'Asie du Sud-Est, donc Inde, Bangladesh, Pakistan, par là. Et Rava, on n'est pas sûr.
Bah oui.
Mais en gros, il y a une idée de c'est peut-être leur fille adoptive. Elle est, enfin en tout cas, elle a l'air plus racisée que les deux et que Iverson, qui est le fils du coup, qui est moins typé. Et du coup, il y a un peu cette idée de. Je trouve que c'est intéressant si Kendall il a adopté une fille racisée et qui se retrouve maintenant confrontée à ma fille. Elle est agressée par un monde que je contribue à créer, tu vois.
Bah oui.
C'est pas qu'elle a été agressée parce que c'est sa fille à lui. Elle a été agressée par des racistes qui sont encouragés par ce qu'ils produisent, ce qui est du coup moins personnel.
Mais ils en parlent jamais aussi clairement. Je crois même dans toute la série, ils en parlent pas aussi clairement.
Non, c'est jamais clair. Ouais. Donc, et il y a jamais de truc de, tu vois, Logan il dit jamais tes gamins ils sont adoptés, ou enfin il y a pas du tout ce thème. Donc on sait pas. Mais apparemment l'actrice, alors je suis pas allée revoir les scènes où on voyait la fille de Kendall, mais elle a été agressée parce que racisée dans des États-Unis de plus en plus polarisée.
Elle a pas été agressée d'ailleurs parce que Rava après elle remesure le truc en disant il y a un mec qui l'a frôlé.
Ouais, et donc, c'est elle qui l'a poussée ou un truc comme ça.
Non, je crois pas. C'est juste, en fait, il y a un mec qui est passé un peu trop près d'elle et elle était avec une bande de potes et en fait, elle a pris peur. Ce qui fait aussi partie du truc, hein. C'est que la peur engendre la peur, quoi. Mais non, le mec l'a pas, si j'ai bien compris, le mec l'a pas agressé à ce point, quoi. C'est juste, elle s'est sentie.
Oui, non, Kendall, il monte en tour en mode, t'étais où? Pourquoi elle était dehors et tout? Bon. Et lui, il était où? Qu'est-ce que tu penses de ce retour de Daron Kendall, du fait que Kendall est père de famille et que on en a littéralement pas entendu parler de toute la
saison? Je trouve ça d'autant plus intéressant. Effectivement, il y a un lien qui se fait avec avec son propre père à lui, et de ce fait-là, de se remettre dans la situation de bah n'oublie pas mon gars, c'est qu'en fait tu vas toi-même être en train de reproduire exactement ce que Logan a fait. Et Navo dit bah ta fille est en train de faire une chive et en fait tu vas pouvoir gérer le truc exactement de la même façon que ton propre père, c'est-à-dire de façon nulle. C'est dommage parce qu'il lui dit qu'il va l'appeler, on sait pas trop s'il l'appelle ou pas finalement, et je trouve ça assez dommage. Je sais pas s'ils l'ont tourné, qu'ils l'ont coupé au montage, mais je trouve ça assez dommage qu'on ait pas eu un échange, tu vois, qu'on ait pas vu l'échange entre Kendall et Sophie. Peut-être,
moi je pense pas qu'il l'a appelé, hein.
Bah,
il est en mode Rava, j'ai 6 continents à gérer. Je suis en train de littéralement rétablir la paix dans le monde. Il a fini cette interaction. Il est direct allé au brunch avec Connor gérer l'enterrement de son père, et il est direct allé gérer élire, faire élire le prochain président et éclater Madison. Je pense qu'il a zéro repensé à sa fille. Sauf pour moi, à un moment, il dit à Nate, et on en parlera de la scène entre Kendall et Nate, mais il lui dit. C'est des sujets qui me touchent personnellement. Et moi, j'étais là, ah, connard, tu vas utiliser ça en mode, tu sais, j'ai une fille, elle a été victime de trucs et tout. Je suis peut-être. Sûre qu'il a juste digéré comme un outil business dans sa tête. Mais je pense pas qu'il l'a... Je sais pas... Ouais, dans le chat, il y a Navo qui dit, c'est sûr qu'il l'a pas appelé. Il est en train de sauver le monde et de soigner le cancer.
Putain, ouais. Ouais. Ceci dit, j'aurais bien aimé avoir le coup de fil, en fait, avoir le point de vue de Sophie par rapport à ça et de voir un petit peu comment il interagit avec sa propre fille, parce que
on l'a jamais vu faire,
bah non, et effectivement on a bien vu Logan interagir avec ses enfants plein, mais c'est vrai qu'on a assez peu vu Kendall, qui est plutôt absent pour le coup, et pas non, il est absent mais dans le sens où il est pas non plus toxique, quoi. On sent qu'il aime ses enfants, quoi. Donc je trouve ça un peu étonnant, tu vois, qu'il est pas...
Je sais pas si on peut dire qu'il les aime, il les connaît pas. Hein.
Oui, mais il leur veut pas du mal, tu vois, non. Par exemple. Là où Logan, il avait un vrai truc de...
Oui, pour
de
le
les
coup,
monter les uns contre les autres, etc. Tu sens
qu'il est pas resté à côté d'eux pour les torturer, il a juste fait sa vie et il s'en est pas trop occupé. Ce qui est, je pense, moins pire, quand même, à choisir.
Il va écrire un rap pour ses 18 ans, ouais, exactement.
Droite. Et bah d'ailleurs, quand il finit par dire à Rava que tout ce qu'il fait, il le fait pour ses enfants, cette fameuse... Moi, j'ai pensé direct à Walter White dans Breaking Bad, qui prétend que tout ce qu'il fait, c'est pour sa famille.
Bien sûr.
Et alors, spoiler pour la fin de Breaking Bad, si vous ne l'avez pas encore vu,
à couper,
il finit
couper,
par...
Couper.
Alors, spoiler pour la fin de... Quoi ? Non, c'est OK. Spoiler pour la fin de Breaking Bad, ça commence maintenant, ça va durer 30 secondes.
Oui.
Il finit par admettre, juste avant de mourir, à sa femme qu'il l'a jamais fait pour sa famille, qu'il l'a fait pour lui, et c'est un moment très cathartique pour
Bien
sa
sûr.
Femme, la pauvre, et pour nous en tant que spectateurs et spectatrices. Et donc, fin du spoiler Breaking Bad, Kendall dit tout ce que je le fais pour eux, et c'est exactement, j'avais oublié, mais c'est exactement ce que Logan a dit, dans la fameuse thérapie familiale qu'ils avaient fait, où Kendall était parti prendre de la meth avec des gens.
Putain.
Et il était rentré sous méthamphétamine parce que Roman était venu le chercher, ça paraît si loin.
Ça paraît très loin.
Donc, le cycle, ma foi, continue à se reproduire. On a une toute petite scène ensuite qui va être importante pour la suite, c'est que Roman, au téléphone, est en train de lancer un enquêteur aux trousses de Madson, du coup, pour voir s'il n'y a pas des lièvres à lever.
Est-ce que c'est pas le fameux ratfucker, là, dont il parle les saisons précédentes, dont Logan parle ?
Je crois qu'ils disent qu'il y a
Thomas,
un nouveau ratfucker ou un truc comme ça.
Okay.
Thomas, oui. Mais oui, en gros, ça, c'est une forme de détective privé, probablement capable d'intimidation plus. Puisque bah il finira par revenir avec une vraie info, puisque c'est lui qui révélera à Roman et donc à Kendall et à Shiv qui le découvre à cette occasion bien sûr que pardon que Madson envoie des trucs bizarres à sa DIRCOM. Et ensuite on a le brunch où personne, enfin le petit déjeuner de famille où personne ne mange rien du tout et ne boit rien du tout.
J'aime tellement ce
Connor
moment.
Connor prononce trois phrases et s'en va alors que c'est lui qui l'a organisé. J'étais là mais il va où ?
J'aime tellement ce moment, vraiment ça prouve à quel point ces gens n'ont strictement rien à foutre. Ils viennent dans un endroit ultra, qu'on imagine ultra huppé et où effectivement le petit-déj doit coûter très cher.
Ouais, je pense que le petit-déj, il est à trois chiffres. Quoi.
Et en fait, ils se font même rien servir. Ils restent là trois minutes et ils se barrent alors qu'en fait, ils auraient tout simplement pu se faire une conf call ou...
Ça aurait pu être un email, clairement.
Ouais, ou un message sur WhatsApp, quoi, tu vois.
Après, il me semble, il y avait un, mais je sais pas si ça a été résolu, mais il y avait un bail où Connor, il a pas de logement à New York fixe, il a un ranch où on les avait vus aller, mais il a pas de logement à New York fixe et au moins pendant un an entier, il a vécu dans un hôtel. Donc, on imagine pas le Formule 1 du coin. Avec Willa. Et là, on a vu qu'il essaye de, qu'il vise à acheter l'ancien appart de son père. Mais peut-être que du coup, c'est là où Connor habite. Genre, c'est l'équivalent pour eux de, on va voir Connor chez lui, mais bon, il a quand même une suite, j'imagine, ils auraient pu être en privé. Donc Connor les réunit pour demander qui va faire le discours.
Mais c'est surtout, j'adore quand il dit « Je voudrais que l'enterrement de papa, il reste sur un tight 90 », tu vois, genre 1h30.
C'est vraiment un organisateur de soirée, l'événement là.
C'est vraiment « Ok, on fait une visio, mais alors on reste pas plus de 30 minutes. Hein, ok, tight 90, c'est vraiment… Faut pas que ça déporte, quoi. Faut pas que ça dépasse. »
Il y a le conducteur des funérailles en tête. Et alors, il y a Madame Volovitz dans le chat qui dit « Can't wait, l'enterrement, Marsha a dû faire des dingueries ». C'est vrai qu'il mentionne de nouveau que Marsha, elle est implicado dans le truc. À quel point j'ai hâte de l'épisode des funérailles.
Bien sûr.
Rien que pour revoir Marsha, j'ai très hâte. Et donc, il y a cette question de pour garder tout ça dans un tight 90, on va pas faire 12 000 discours, lequel de nous, enfants, fait le discours ?
Eh ben, ça ça lève pas trop la main trop vite, hein. Ça se lève pas très très rapidement. Hein.
Ça se regarde en coin, en mode... À ton avis ? Est-ce qu'ils ont tous envie de le faire ? Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas envie ?
Il y en a aucun qui a envie. Parce
Moi,
qu'en
je
fait...
pense qu'ils ont un peu tous envie.
Mais pourquoi ?
Parce qu'ils veulent tous shine. Ils
veulent tous
être l'enfant. Sauf que peut-être Connor, mais ils veulent tous être le number one boy et l'enfant préféré, tu vois.
Alors pour moi, je crois vraiment qu'ils vont être obligés de dire des trucs sympas sur leur père. Et il n'y en a aucun qui sent qu'il va pouvoir être authentique et qui va pouvoir... libérer des émotions, montrer des émotions où tu vois ton père est mort, t'as envie de montrer son plus beau visage et en même temps t'as pas envie de mentir. Enfin je crois, pour moi c'est ça quoi.
Ok, oui, bah comme il l'appelle pendant qu'il est en train de mourir et qu'il les entend peut-être ou pas, que Roman par exemple, c'est au moment où il commence à lui dire t'as fait ce que t'as pu, t'as été un bon père, qui pète un câble et qui
je peux pas faire ça.
C'est trop. Et Shiv c'est pareil, elle lui dit un truc gentil, elle est là. Donc peut-être, ok, ok, je vois ton interprétation. Moi, je l'ai vraiment lu comme ils veulent tous les trois le faire et ils se regardent en coin, mais peut-être pas pour les mêmes raisons. Je pense que Roman, il veut le faire parce qu'il est fracasse et que il aimait beaucoup son père et que, enfin, c'est celui qui a le moins finalement digérer la mort de leur père et qu'il saisit toutes les occasions de se raccrocher à lui, comme le deepfake que Kendall lui envoie dans l'épisode précédent par exemple, ou aller voir le corps dans l'avion et tout. Je pense que Shiv, elle veut le faire parce que c'est la petite fille chérie et qu'elle veut Shine, et que Kendall, il veut le faire parce que ça le rapproche de son père dans l'œil des gens, tu vois. Ça fait de lui le number one son. Et pour moi, ils se regardent tous en coin de... Je veux pas être le connard qui dit moi en premier.
Okay.
Donc, tu sais, c'est comme quand il reste une seule part de gâteau et que tout le monde la regarde, mais personne ne la mange.
Mais ils sont très bons pour le faire d'habitude, tu vois. Et là, ils le font pas. C'est-à-dire que, tu vois, Ken et Roman, ils sont tout à fait capables de venir dire, en fait, c'est moi qui vais être CEO et ok, toi, tu vas être co-CEO, ok, tu vas être co-CEO. Et en fait, de dégager Shiv à la première occasion.
Oui. Mais quand ils viennent littéralement de le faire et de lui promettre qu'ils vont plus le faire. Donc, peut-être qu'ils se disent, on peut pas. Je sais pas. Mais c'est pas clair. Alors, qu'est-ce que
vous en pensez dans le chat?
Selon moi, les trois ont envie mais n'osent pas le dire aux autres, nous dit Madame Volovitz. Léa dit « J'avais compris que les trois voulaient le faire ». Navo dit « C'est fou comme chaque discussion entre les frères et sœurs ressemble toujours à une négo. C'est frappant, même pour qui parle de papa, de fou ». Tammy, je suis d'accord avec toi et dit « Je trouve que c'est comme dans la vraie vie, personne n'a envie de faire ça ». Marty dit « Ken est déjà à l'aise dans le domaine, il a parlé émotion et Logan lors de sa présentation la semaine dernière avec ce deepfake de Logan incroyable ». Alors, tu penses pas que personne a envie de faire ça dans la vie ?
Non.
Non, je suis d'accord.
Pour moi, c'est aussi une façon de rendre hommage, en fait, et de rendre hommage devant tous les gens qui aimaient Logan, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, tous les gens qui vont se déplacer là. Et dans la vraie vie, moi, je trouve ça cool de venir parler de quelqu'un que t'aimes à une tribune, quoi.
Bah ouais, grave. Tu sais, j'avais ce projet à un moment de Personne Bizarre où je voulais faire un livre avec les épitaphes des gens que j'aime, et comme ça je vous les lis avant que vous mouriez, parce que quand vous serez mort, vous saurez pas.
Wow.
Et peut-être d'ici là, on sera embrouillé, donc autant, tu vois, graver dans l'ambre ce que je dirais. Je te ferai une épitaphe de fou, tu vois, je te ferai un éloge funèbre de fou.
Incroyable.
Tu vois, avec des vannes et tout, machin, ce sera bien. Donc bon. Je suis d'accord que j'ai envie de me dire, mais j'ai jamais eu à le faire devant des gens pour une, enfin, tu vois, j'ai eu la chance de pas perdre grand monde de proches et tout, donc je dis pas que c'est marrant à faire, mais je suis d'accord que, à mon avis, il y a des gens qui, dans la vraie vie, parfois, veulent le faire.
Oui. Personne n'a envie de pleurer, mais je trouve ça, c'est pas grave de pleurer.
C'est pas grave, mais pour l'héroïne, c'est compliqué, quoi. Oui. Après, comme dit Navo, c'est ça qui est brillant, on sait pas ce qu'il pense, ce qui est fou puisque c'est une réunion privée, pas de business. Tout à fait, mais écoutez, on le saura pas tout de suite qui va finir par faire le discours, ça reviendra à la fin de l'épisode. Il y a un autre sujet, dès que Connor se barre, ils se mettent à parler business principalement.
Ouais.
Et donc il y a ce sujet de Nate va venir parce qu'on veut pousser l'angle des régulations contre le deal. Est-ce que t'as compris tout de suite de quoi il s'agit ?
Non, je savais plus qui c'était Nate.
Okay.
J'avais oublié Nate. J'ai vraiment mis longtemps avant de comprendre qui était Nate, surtout qu'elle dit Nate, genre après elle dit son nom, sauf Rally, là. Je suis là, mais je sais pas du tout. Donc pour moi, c'est juste un nouveau gars et qui viendrait, qui serait, tu vois, un mec de, je sais pas, tu vois, de l'autorité de régulation,
de la
bourse.
La politique.
Je sais pas, tu vois, même pas. Parce que pour moi, j'avais même pas fait le lien avec la politique.
D'accord.
Je me souvenais plus de Nate. Franchement, ce mec, pourtant, il est en quoi, saison 1, c'est ça?
Bah, il est saison 1 et 2. Non, il se fait. Non, le mariage de Shiv, c'est fin de saison 1, puisque c'est le serveur. Et il se fait têche du mariage par Tom. Donc, en gros, c'est un ex-collègue slash flirt de Shiv. Ils bossent ensemble sur la campagne de Gil.
Flirt? Plus que flirt, hein, j'ai l'impression.
C'est un ex de Shiv. Collègue, flirt, c'est sûr. Plus, je sais pas si on sait qu'ils ont été vraiment en couple. Quand Shiv demande à Tom est-ce qu'on peut être en relation libre, elle couche avec Nate. Enfin, rappelons qu'elle demande le jour de leur... Non, elle lui dit aussi qu'elle avait déjà couché avec Nate. Et du coup, Tom sort Nate de leur mariage et le force à reverser son verre de vin dans la bouteille en disant « T'es là, tu bois mon vin, connard !» et tout. Ce qui est un des rares moments dans la saison 1 où Tom n'est pas une forme de limace qui se laisse marcher dessus par la famille Roy. Donc et on a vu Nate du coup travailler avec Shiv sur la campagne de Gil. Ensuite, ce fameux un peu Bernie Sanders plus jeune qu'il y avait dans la saison 2. Et on l'a pas vu depuis. Et he's back.
Tu t'en souvenais, toi?
Ouais. Nate, je l'avais parce que je sais que c'est un point important dans la relation entre Tom et Shiv. Et parce que je m'étais fait un petit peu spoiler par Reddit sur... En fait, comme j'écoute beaucoup de podcasts, je lis beaucoup de threads Reddit et tout, pour le coup, Succession, il n'y a pas tant de personnages.
Ouais.
Et j'ai tous leurs noms. Si vous me connaissez, vous savez que j'ai pas le nom des gens dans la vraie vie que j'aime bien. Donc les noms de personnages de série, je les ai pas toujours. Là, j'ai tout le monde. Donc je savais que Nate c'était un mec de gauche, mais j'ai pas tout de suite compris exactement de quoi ça s'agit. Après, je trouve que ça devient clair dans l'épisode, mais on comprend que, en tout cas, c'est là qu'ils disent, on n'est pas sûr que la revalorisation en bourse, ça va suffire avec Living Plus. On veut toujours qu'ils le deal, et Shiv, elle leur dit toujours pas que... Elle roule pour Madsen et qu'elle, enfin, elle essaye pas de les de leur faire. Elle leur dit même pas. Mais moi, j'ai pas envie de qu'ils le disent. J'ai pas envie de vous suivre dans votre Zumba. Quoi.
Mais non, elle préfère les niquer par derrière, comme un scorpion.
Bonjour. Oui, c'est vrai. Et on va voir que ça va lui réussir bof, comme le scorpion sur la grenouille dans la rivière. Car peut-être que elle est montée sur la mauvaise grenouille finalement, et elle l'a piquée au mauvais moment. Et du coup, dès que les frères partent, Shiv appelle immédiatement Madsen pour lui dire OK, il faut que tu viennes. Donc Madsen will be at the party.
Et en plus, elle est... Enfin, moi, là, tu vois, je l'ai trouvée particulièrement bonne. C'est-à-dire que c'est très rare les moments où je la trouve bonne dans la série. Et là, je l'ai trouvée super bonne, tu vois, parce qu'elle a des arguments, c'est clair. Le mec, il dit « Oh non, j'ai pas trop envie de venir. » Tout. On imagine à quel point ça le fait chier. Et on va s'en rendre compte assez rapidement pendant la soirée. Et elle a les bons arguments, le bon truc, où elle lui dit « Non, 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 mais en fait, il va y avoir... En gros, ta vente, elle va être décidée par 40 connards. Et en fait, il y aura la moitié d'entre eux qui seront là. Donc, il faut que tu viennes, quoi. Mm-hmm. » Et je la trouve hyper sharp. Ce qui est pas tous les jours.
Tout à fait. Tu penses quoi de sa relation avec Madsen, notamment dans l'épisode précédent, où pareil, ils avaient des petites conversations qui dans un jet privé, etc. Où pareil, ils commencent à développer cette relation business, d'espionnage et tout. Moi, je trouve qu'elle met une distance intéressante, où elle a ce flirt et en même temps, pour moi, elle a zéro... Enfin, pour moi, elle l'aime pas du tout, tu vois. Mais non. Juste, elle a pas trop d'autres alliés. Mm. Qu'est-ce que tu penses de comment elle a géré jusqu'ici ?
Bah plutôt bien, et en fait, après plutôt bien, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est juste, pour moi, elle est vraiment en train de faire comme son père, c'est-à-dire qu'elle joue sur les doubles tableaux, elle joue un double tableau de ouf, elle est en train de trahir ses frères exactement comme Logan a trahi ses frères auparavant, et elle aussi en passant. Enfin, pour moi, c'est vraiment le perso qui se rapproche le plus de Logan. Et tu te souviens, on avait parlé il y a quelques épisodes de cette docteur là en psychologie qui est spécialiste des narcissiques et qui racontait que Shiv et pour elle était la plus proche de Logan. Et en fait, je trouve que ça se voit de plus en plus, quoi. Mais effectivement, elle joue sur les deux tableaux et en fait, bien sûr que non, qu'elle va pas dire à ses frères qu'elle veut que le deal se fasse. Non, non, elle préfère leur planter un bon poignard dans le dos, quoi.
Tout à fait. Et French Fry dit « Shiv a tout de même bien joué car elle ne s'est pas grillée auprès de ses frères ». Moi, j'ai envie de dire, c'est aussi, sans enlever du mérite à Shiv, une preuve supplémentaire que ses frères, ils sont nuls à ce jeu. Parce que je pense que si Logan, il excluait, par exemple, Jerry d'un deal en faveur de Frank et Carl, comme les frères ont exclu Shiv du plan d'être PDG, Logan, il surveillerait Jerry comme du lait sur le feu, parce qu'il serait là, elle va me la faire à l'envers, c'est un scorpion, elle va se venger, il faut que je me méfie d'elle. Et les frères, ils ont l'air de zéro se dire, peut-être que Shiv, elle a le seum qu'on l'ait sorti du truc de PDG, qu'on lui ait dit on va pas te mentir et qu'on lui ait immédiatement menti. Peut-être que les 3 minutes où on lui a dit vaguement désolé, où on a fait le huggy thing hier, ça suffit pas, et ils sont vraiment en mode...
Mais ça,
elle est dans notre team, ça, on va lui partager les infos et tout. Je suis
à... Ça prouve aussi à quel point ils sont nuls par rapport à leur propre père. Et notamment, c'est qu'ils demandent à Shiv pendant la soirée de babysitter Madsen pour te dire à quel point ils sont complètement à côté de la plaque.
Oui, il jette le renard dans le poulailler, comme on dit. Navo nous dit « Je trouve ça bizarre que Shiv appelle réellement Nate. Elle aurait pu mentir à ses frères et dire qu'il refuse de venir. Mais elle préfère faire venir Madsen parce qu'elle va faire venir Nate. Donc je pense qu'elle utilise Nate parce qu'elle a envie que Madsen vienne pour lui montrer qu'elle est importante. Je pense pas que c'est elle qui fait venir Nate. C'est ses frères qui disent « Nate, il veut venir. » Est-ce que t'es ok parce qu'ils savent qu'il y a un bail et que c'est chez elle et que c'est compliqué avec Tom. Mais c'est pas elle qui décide s'il vient ou pas. Et il me semble pas qu'ils lui disent « Il faut que tu invites Nate pour nous ou que tu nous files son numéro. » Ils vont faire ça de leur
côté. Ils ont déjà une relation avec lui.
Oui, bah Kendall et lui ont l'air de bien se connaître. Oui. Ça, j'avais oublié. Je sais pas si on le savait, que Kendall et lui, ils ont l'air d'être un peu potes d'il y a longtemps. Mais why not ? Et alors, quelqu'un dans le chat disait « Il bosse pour qui, du coup, Nate ?» Parce qu'il n'y a plus Gil et tout. Il bosse pour Jiménez.
Jiménez, on l'a jamais vu ?
Non, on l'a pas vu. Mais on en a entendu parler une ou deux fois dans cette saison. C'est le candidat démocrate. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'entre les deux saisons, on a raté la primaire. Donc on n'a pas vu toute la course à est-ce que Mencken va être le candidat républicain ? Spoiler, oui. Donc Mencken, le néo-nazi. Et qui va être le candidat démocrate ? Bah du coup, c'est pas Gil, c'est un mec qui s'appelle Jiménez et avec lequel Shiv était en discussion au début de la saison. Si j'ai bien compris, Nate, il bosse pour ce gars-là.
Oui.
Qui est le candidat démocrate et qui, d'après les sondages, est plutôt pas mal à la veille de l'élection. Exactement. En tout cas, c'est pas joué 100% pour Mencken.
Mais c'est même plus que pas joué. Ça a l'air
tight.
Ouais.
C'est un peu ce truc de face à un néo-nazi, ça devrait pas être tight, mais en tout cas, il y a une bonne chance qu'il y ait à l'épisode suivant probablement un président démocrate et Connor sera très triste. Quid du sexting entre Tom et Shiv qui arrive juste après? Parce que Tom Wamsgams est hard at work. Il a beaucoup de gens à licencier avec son ami Greg. Mais avant, on va envoyer des petits sextos à madame. Est-ce que t'as fait pause pour lire?
Oui, comme toi, j'imagine.
Ah, oui, de fou. J'adore le... C'est rare de voir du sexting dans les séries, je trouve.
C'est rare de voir du sexting dans les séries et c'est rare que ça parle de sexe dans Succession.
Dans Succession, c'est vrai. Est-ce que tu as en souvenir ce qui se raconte l'essence, est-ce que tu peux nous dessiner un petit peu le contenu de ces sextos pour celles et ceux qui n'auraient pas fait pause?
En gros, là, c'est, je crois que c'est Tom qui dit « Ok, c'était comme les Jeux Olympiques de l'orgasme ». Là où, juste avant ça, Shiv lui a dit « Ok, c'était cool, j'ai joui au moins 30 fois
». Ça s'appelle à mentir par contre, hein. Ça c'est pas vrai quoi. 30 fois, c'est pas... ça arrive peu. Hein.
Ceci dit, comme tu me disais par Messenger... Souvenons-nous que Tom a déjà parlé lui-même de sa propre performance et qu'il disait
« J'ai une bite de la taille d'un séquoia et je baise comme un train à grande vitesse ». C'est ce qu'il a dit à... Je crois que c'est Greg à un moment qui lui avait dit un truc genre « Mais pourquoi je suis allé avec toi ?» Ou un truc comme ça. Et qu'il était en mode « Bah, tu sauras que... »
Est-ce que c'est pas au tout début de leur relation d'ailleurs? Je crois que c'est l'un des premiers trucs qu'ils se disent.
Peut-être. Dans ma tête, c'est un peu plus tard.
C'est pas épisode 1 où vraiment, pour moi, c'est vraiment au
non,
tout début de la série.
C'est plus tard, je crois. Parce que ça rentrait un peu dans les gens. Ils avaient déjà un délire de Greg et Tom, ils veulent un peu se pécho. Et du coup, Tom qui lui parle de sa bite, les gens bizarres sur Tumblr, ils étaient en mode ok, c'est confirmé, ils vont se pécho. Je vous aime, les gens bizarres de Tumblr, hein, y a pas de problème. Navo dit je suis sûr que Tom est un bête de cou. Moi, je pense que c'est un bête de cou, mais trop technique. C'est juste un mec qui a trop bien appris comment bien faire. Genre, les bons mouvements, le bon rythme, mais du coup, je pense pas qu'il se laisse aller de fou, tu vois. Je pense que c'est le genre de mec,
alors,
il sait qu'il peut te faire jouir, mais il le sait un peu trop.
Moi, je pense que, et notamment vis-à-vis de Shiv, il est vraiment en mode total de s'offrir à elle, et donc il donne tout. Pour moi, il donne tout. C'est sûr et certain qu'il donne tout.
Il est fatigué,
le mec. Et surtout, moi, j'imagine très bien Shiv au pieu. Je sais pas comment tu l'imagines, mais genre, relentless. Je sais pas comment on dit en anglais, mais genre, relentless, quoi. Tu vois, vraiment, la meuf est assoiffée. Elle peut.
Inassouvable? Non.
Ouais, inassouvable.
C'est quoi le mot, le chat? Vous l'avez et vous êtes énervé qu'on l'ait pas.
On
et
peut
vous
pas assouvir.
Mais non, inassouvable, ça n'est pas un mot, en fait.
Mais oui, tu vois, qui est vraiment, elle en veut.
Insatiable.
Insatiable, qui en veut toujours plus et qui vraiment, t'es là, mec, tu vas pas dormir, tu vas continuer à bander, quoi.
Oui, je pense...
bien sûr.
Les notions de consentement non succession sont forcément floues parce que tous ces gens sont bizarres et leurs relations sont bizarres, mais... Surtout entre ces deux-là, mais je pense que, ouais, ça réclame beaucoup et je pense que Shiv est totalement incapable de se laisser aller aussi pendant le sexe, donc je pense que c'est de la... C'est un peu du MMA, tu vois.
Oui.
Ou du catch. Enfin, c'est du catch ou c'est de la performance, mais c'est pas pour de vrai.
Bah, je crois que Shiv, en termes de savoir recevoir, vraiment,
tu
es sur un zéro
genre,
pointé.
Bah, je sais pas, même ses orgasmes, une autre chose. Bref. Du coup, ça sexte fort. Et ça tombe bien puisque Tom va pouvoir déléguer la tâche du jour à Greg. Qu'est-ce que t'as pensé de cette petite, en tant qu'ancien patron d'entreprise? As-tu déjà envisagé de licencier une centaine de personnes sur Zoom?
Alors, j'ai jamais embauché une centaine de personnes, donc je ne sais pas. Mais surtout, en fait, je comprends pas pourquoi ils se séparent de ces gens. C'est-à-dire que c'est jamais expliqué.
Il y a une structuration de ATN, et pour moi, ils sont en train de préparer la vente à Gojo de... On sait qu'ils vont...
Mais alors, dans ma tête, moi, ils sont en train de faire le plan que Logan avait en tête, qui était, ok, il y a trop de monde dans...
Oui, c'est vrai.
Mais
oui, je suis bête, c'est ça.
Ok.
Je pense, oui, c'est ça.
Ok.
Business.
L'autre, il est arrivé.
Le business continue, quoi.
Il est arrivé deux jours, juste avant de mourir. Il a dit, ok, on va virer 100 personnes. Et après, t'as les connards qui sont là. Bon, bah, très bien. Alors, si papa, il l'avait dit, il faut qu'on le fasse.
Oui.
Et en fait, j'adore vraiment cette relation idiote entre Greg et Tom, où l'autre, il est là. Bonjour, je vais vous parler 30 secondes. Et puis après, je laisse à mon sous-fifre, là, le soin de faire le sale boulot.
Mon collègue Grégory Hirsch qui a plus d'informations.
Il est horrible, bien sûr, il lit ce putain de papier. On est sur un niveau d'empathie proche.
Ah bah zéro, il le dit lui-même plus tard. Hein. Les RH disent que je suis bien pour faire ça parce que on dirait que j'en ai quelque chose à foutre alors que non.
Oh là, alors Non, on dirait pas
on
du
dirait
tout.
On dirait pas, je suis désolée.
Tu sais, à la fin, il ferme l'ordi et il fait « Nice ». Je suis là « Non ».
Non. Enfin si, le boulot est fait. C'est-à-dire que vraiment, oui. Tout comme... c'était quand ce moment où il disait « Ok, the job is done » et qu'il avait fait nimp.
Avec Kerry. Quand il devait persuader Kerry de ne pas vouloir être présentatrice télé et que pour le coup, il lui avait roulé dessus.
Et à la fin, il était là « Super, j'ai fait exactement ce qui était prévu ».
Quand je dansais à tout doux. Hop.
Et j'ai adoré vraiment les gens qui réagissent en face, qui pètent tous des câbles, qu'il est là.
Et qui sont en mute.
Ils sont tous mutés.
Je vois de la confusion dans le chat. Le mec, il est là, mais c'est un streamer, quoi, j'en peux plus. Oui, si ça me confusionne in the chat. Attends, j'avais pas noté, il y a Léa dans le chat qui dit, il lit son bonjour. Genre, il dit même pas bonjour, il le lit. Incroyable scène. Et apparemment, alors déjà, c'est arrivé dans des grandes entreprises que plein de gens, surtout aux États-Unis où c'est facile de licencier des gens. Qu'il y ait des licenciements de masse.
Et là, chez Facebook,
Zoom.
Google et tout, ils ont viré 10 000 personnes. T'imagines bien que...
Dans la tech, là, récemment, dans les médias, bah, Insider, BuzzFeed News a fermé, etc. Donc, c'est en référence à plein de trucs qui sont arrivés et qui continuent d'arriver, ce licenciement de masse sur Zoom. Mais apparemment, le fait que Tom commence spécifiquement en disant... il commence en disant... j'ai déjà fait ça la dernière fois, j'étais très triste, j'espérais être moins triste cette fois. C'est peut-être en hommage au vrai PDG d'une entreprise qui avait licencié une centaine de personnes et qui avait dit, qui avait pleuré pendant en disant c'est hyper dur et tout. Et bah qui était devenu un peu un mème parce que juste genre mec, c'est... quand tu licencies 100 personnes, il y a plein de gens qui vont avoir de l'empathie pour toi, mais c'est probablement pas ces 100 personnes-là qui ont besoin d'entendre à quel point ça te rend triste, toi, là tout de suite. In this economy. Les commentaires disaient que c'était pas de la fiction, mais que cette scène est un documentaire de ce qui se passe actuellement, nous dit Tamish sur le chat.
Ouais, c'est très possible.
C'est un peu trop réel.
Mais comme je disais, là, Facebook, Google et tout, ils ont tous viré plus de 10 000 personnes. Donc forcément, tu peux pas virer 10 000 personnes en... Bah, t'es obligé de faire des réunions Zoom où tu vires tout le monde, quoi. Je sais pas comment tu peux faire autrement. Tu peux pas les prendre un par un pour leur dire, pour leur expliquer, pour leur justifier et tout.
Surtout qu'aux
US, il y a pas de droit du travail. En tout cas, le droit du travail est pas aussi protecteur.
Ah oui, Madame Wolowitz dit Elon Musk a envoyé un mail groupé. Je sais qu'il y avait des trucs aussi où genre tu viens le matin et si ton badge y passe pas, c'est que t'as plus ton
papier
Twitter.
Ça c'est sur Twitter.
Ouais, Elon Musk c'est un sacré, une sacrée Zumba et pas si loin du personnage de Madsen.
D'ailleurs, je sais pas si tu savais, mais Musk avait viré le mec qui s'occupait des badges chez Twitter et donc s'était retrouvé à l'appeler pour qu'il vienne régler le problème une fois qu'il s'était fait virer.
J'espère qu'il est pas venu.
Je ne sais plus.
J'espère qu'il a, il est venu pour très cher, le gadget. Parce que vraiment là, il te doit rien
c'est
du
génies,
tout.
Vraiment.
Non, mais c'est le mec ici la branche sur laquelle il est. Oui. Ah, du coup, voilà, bravo Grégory Hirsch pour cette montée en compétence. Il peut maintenant mettre dans son CV virer des centaines de personnes. Et visiblement, ça fait des anecdotes qui tuent en soirée. On en reparlera, mais ça crée du lien, quoi. Ensuite, on a donc. Est-ce que tu savais c'est quoi ces histoires de tailgate party? Est-ce que tu avais compris c'était quoi le contexte de cette fête que Tom organise?
À la base, c'était pas Tom qui l'organisait, mais je crois que c'était Logan qui l'organisait.
Yes.
Et Logan qui, si j'ai bien compris, l'organisait tout à chaque présidentielle. En tant que média, ils ont un peu ce truc de ok, on va faire une fête un peu pour recevoir tout le monde et recevoir les gens qu'on aime et
le gratin du gratin quand même.
Exactement.
Hein. La crème de la crème.
Et j'imagine que comme Logan est mort, Tom et Shiv se sont dit, ok, ça va être. D'ailleurs, je crois que c'est Kendall qui le dit. Merci à Shiv et à Tom de prendre la suite.
C'est Tom qui l'a proposé à Shiv dans l'épisode précédent, dans une scène très courte où ils sont dans la bagnole.
Ah,
il dit pour la soirée de Logan, je me disais que peut-être je pourrais. Je crois qu'il dit I could host ou we could host, mais c'est il tente, tu vois, genre est-ce qu'on peut reprendre une vie domestique, est-ce qu'on peut se montrer ensemble et tout, et ça marche.
Petit scorpion.
Est-ce que t'aimerais bien être à cette soirée?
En tant que podcasteur.
En tant qu'humain.
Non, mais tu sais, parce qu'il y a,
Ah oui, il y a la podcast queen, apparemment.
La podcast queen.
C'est toi et moi, quand on arrive en soirée, tout le monde nous accueille comme ça.
D'ailleurs, comment il l'appelle? Il l'appelle la pod queen, c'est ça? La
ouais,
pod queen.
The pod queen. Putain, mais Kendall, c'est... je déteste la façon dont il parle.
Non, j'aimerais pas du tout être à cette soirée.
Moi, j'aimerais bien parce que tu vois, j'ai pas d'enjeu. Déjà, les petits fours ont l'air incroyables. Ces petits fours qui recréent la gastronomie populaire américaine, là, c'est tellement cynique. Et parce que je regarderais tous les nani nana, mais avec une forme de très désabusé. Mais j'éclaterais l'open bar extrêmement fort. Shiv explique à Tom que Nate va venir. Est-ce que tu penses qu'elle est sincèrement désolée à ce moment-là?
En fait, je sais. Oui, je crois. Ouais, vraiment. Parce qu'en fait, pour moi, jusqu'à cette discussion sur le balcon, où en fait elle tire sur Tom pendant toute la soirée. Je suis assez d'accord avec le fait qu'elle dit non, mais en fait je suis juste en train de prolonger la blague de. Alors même si c'est horrible pour Tom, je comprends que stratégiquement parlant et politiquement parlant, elle rentre dans le jeu, même si c'est horrible pour Tom.
La blague de Tom va se faire virer.
Ouais. Je comprends qu'elle rentre dans le jeu et je comprends qu'elle vient pas faire non machin parce que en gros il faut qu'elle suive le flux quoi. C'est ce qu'on apprend aussi, j'imagine, tu vois, à des moments, faut savoir choisir ses combats. Et là, c'est pas le bon combat de venir dire, oh ben non, mais pas mon mec, hein, tu vois.
Non, là, c'est vraiment, chérie, on en parlera quand les invités seront partis.
Voilà.
Mais en attendant, on fait bonne figure.
Exactement.
Ce qui va tenir le temps que ça dure. Merci à la team Contexte sur le chat qui rappelle que les tailgate parties, ça vient des teufs sur les parkings avec le coffre ouvert avant d'aller au match, etc. Du coup, c'est la teuf avant le match des élections, effectivement.
Merci French Fry.
C'est avant les matchs de baseball ou de foot américain. Alors là, on n'est pas dans un parking en train de faire un barbecue dans le coffre d'un pick-up. On est un peu plus dans un triplex, apparemment, avec vue sur New York incroyable, mais qui n'impressionne pas tous ces gens. Et quelqu'un dans le chat, je crois que c'est Madame Volovitz, non, c'est Léa, a mentionné que le vin est dégueu. Tu l'as le vin ou pas? Tu sais pourquoi on parle tellement de ce vin rouge?
Est-ce que c'est le vin dont de leur propre vignoble,
ouais.
Là, c'est ça, dont ils parlent la saison précédente, c'est
tout
ça?
Tout à fait, oui. C'est le vin de Shiv et Tom qui ont acheté un vignoble en Allemagne. Et dans la saison précédente, ils ouvraient la bouteille et il était terreux, je crois que c'était un des termes utilisés.
Ouais. Juste avant qu'ils aient une énorme prise de bec, non? Où elle lui dit, en fait, je t'aime pas, non, c'est pas ça?
Bah, c'est à la fois une énorme prise de bec et probablement la conception de leur enfant. Parce que c'est là où il veut faire du, je crois que c'est là où il veut faire du dirty talk et où elle lui fait du dirty talk en lui disant des vrais trucs.
Ah oui.
Et en lui disant, je t'aime pas, je vaux mieux que toi,
tu crois vraiment que c'est le moment de la.
Je crois, dites-moi dans le chat quand est-ce qu'ils boivent leur vin pas bon. Mais il me semble que c'est là.
C'est au mariage de Caroline.
De la mère de Shiv. Dans ma tête, c'est ça. Et effectivement, il est en train d'écouler son propre vin pas bon ce soir.
C'est normal,
du coup,
la base.
J'ai trouvé ça très drôle qu'ils disent de pas mentionner qu'il est biodynamique.
Qu'il est allemand.
Oui, ni biodynamique, parce que bah, c'est des gars de la haute et des gens de droite, tu vois, ils veulent pas du vin écolo. Enfin, moi, dans ma tête, c'est qu'ils veulent pas du vin de hippie. Et alors, Navo dit, ce vin est le symbole de leur relation qui vieillit très mal. C'est même plus que ça, parce que figurez-vous que dans l'épisode de la semaine du podcast officiel de Succession, c'est Matthew McFadden qui fait Tom, qui est l'invité. Et il explique que pour Tom, ce vignoble, c'était un remplacement du projet d'enfant avec Shiv, puisqu'il avait fait un peu le deuil de visiblement, elle veut pas faire d'enfant avec moi. Et il pensait que c'est un projet qui leur permettrait d'avancer ensemble. Et au final, c'était déjà une déception parce que le vin est pas bon, ça leur fait pas des moments ensemble. Il dit dans le podcast, c'est un, tu sais, les acteurs, des fois, ils ont tous ces détails sur leur perso que t'as pas parce que c'est pas des vrais gens. Et il dit, c'est un vignoble moche au bord de l'autobahn, donc l'autoroute en Allemagne. Et je suis là, mais on y a jamais été, tu vois, on ira jamais, mais lui, il le sait. Donc c'est tout un symbole de, comme ça reviendra dans l'épisode, ce thème de l'enfant qu'il ne sait pas que Shiv porte.
Oh là là.
C'est aussi quelque chose qui représente l'échec total de leur amour et des projets qu'ils auraient pu faire ensemble.
Dur. Comme dit Navo, c'était déjà hyper triste à l'époque. Bah oui, ouais, ça a
ça
pas
a
changé.
Été déjà très mal, putain. Rarement ça a été très bien entre Tom et Shiv. Hein. On va pas se mentir. C'est l'heure de la soirée, du coup.
Oui.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Parti.
Oui.
Beaucoup de gens sont là, pas tout le monde, mais beaucoup de gens sont là. Et on apprend que Menken aurait peut-être besoin des petits pourcentages de Conor Roy.
C'est pas le moment qu'on attend depuis environ l'année passée, ça.
Que Connor.
Le moment de Connor qui effectivement, et je crois que t'en avais parlé, non, où tu te sentais en fait qu'à un moment donné, il allait pouvoir faire basculer
peut-être,
l'élection.
Ouais. C'était une des hypothèses sur pourquoi on parle de Connor qui veut être président, à quoi ça pourrait servir, parce
quand
qu'on sait qu'il va pas l'être.
Bien sûr, mais alors au-delà de l'aspect OK, il est fou et il va dépenser beaucoup d'argent et qu'en fait il a des ambitions qui dépassent très largement ses frêles épaules, il finit quand même par dire non mais je fais 5 ou 6 % en Alaska, quoi. Oui.
Attends, un état, comment dire, un swing state, l'Alaska. C'est pas un état très peuplé, donc selon le système électoral américain, l'Alaska va rarement être décisif, mais là la course a l'air très serrée. Et en gros, donc, pour celles et ceux qui n'ont pas le système en tête, donc Connor, il est third party, donc il est pas le candidat démocrate ni républicain, il fait partie des quelques partis indépendants ou candidats qui se présentent. Et il peut plus se retirer de la course parce il le dit, les bureaux de vote ouvrent dans 10 heures, je crois. Mais il pourrait faire un communiqué officiel qui dit, voilà, au lieu de voter pour moi, allez voter pour Mencken, c'est celui qui porte le mieux mes idées, et se retirer de la course. Mais il a pas envie.
Bien sûr qu'il a pas envie. Et surtout, pour lui, c'est un peu son moment de briller, quoi. C'est, ok, j'ai dépensé tant d'argent, et en fait, pourquoi je ferais ça? Et qu'est-ce que j'y gagne, surtout?
Oui.
C'est surtout ça qui se joue à ce moment-là.
Et ça, je l'avais pas en tête que, au-delà de la course au folle à la présidence et de sa propre folie des grandeurs, en fait, les quelques pourcents allaient aussi lui permettre de pouvoir négocier un poste politique important. Ça, je pense que j'avais juste pas pensé à.
Bah,
quand Connor, il va perdre, j'étais là, bah, il va être en dep comme tous les enfants Roy quand ils pensent faire un truc. Mais en fait, ça peut vraiment changer sa carrière, quoi.
Surtout si. S'il arrive à bien négocier, effectivement, que les quelques pourcents finissent par pouvoir faire basculer la donne. T'as un vrai coup à jouer. Mais effectivement, on l'avait pas vu venir. Hein.
L'ONU, Singapour, Séoul, Berlin d'ici l'été.
Ou alors, je vais demander à ma woman pour Oman.
Ça, c'est la meilleure vanne. Il y a Tammy Schmich dans le chat qui dit sa blague, j'étais gênée. J'ai mis pause tellement je riais.
Oui.
I'm gonna ask my woman about Oman. Je l'aime tellement. Je l'ai remis parce que vraiment, je l'aime trop.
Il la place magnifiquement bien, putain.
Mais oui, et lui, vraiment.
La Corée du Nord, putain, mais il dit...
La Corée du Nord, et quand il dit, on sait pas.
Il y a le cousin Pierce qui est avec lui, qui est toujours là depuis la saison 2.
Du coup, ouais.
Qui est
un genre de penseur politicien de gauche,
ouais.
Mais qui est devenu le quota de gauche de Connor. Il lui dit, careful my liege, comme si c'était son échanson.
Mon seigneur.
C'est son écuyer, c'est quoi?
Ah, ce duo, mais incroyable.
Pour le coup, je veux un spin-off sur Connor et ce gars-là dans la primaire. Vraiment, si on pouvait avoir les 6 mois où Connor a cru qu'il serait peut-être candidat républicain, c'est mon rêve. HBO, donnez-nous, s'il vous plaît, on mérite. Bon, ça va pas être un pays avec des armes nucléaires, mais Connor est fâché parce qu'il dit « Je ne pense pas que je voudrais aller dans le moindre pays où il n'y a pas d'armes nucléaires. » Moi, je pense que la Somalie, c'était un bon premier choix. Ils auraient pu tenter, tu vois.
J'ai du mal à comprendre pourquoi ils ont sorti Mogadiscio. Et quelle est la ref? Pourquoi Mogadiscio, en fait?
Ah
tu
oui.
Vois
pour moi, c'est Parce vraiment. Que... C'est une insulte, quoi. Enfin, lui dire, on va te faire de toi l'ambassadeur des US à Mogadiscio, c'est genre.
C'est un peu insultant.
Je pense pas que Mencken, il le respecte.
Et en même temps,
beaucoup,
il le prend premier Doug. il l'envisage vraiment. Et en même temps, il y a quelques années à Mogadiscio, c'était ultra chaud parce que tu sais, c'est de là d'où sont partis les attentats islamistes à l'époque,
qui ont mené à Carbombi. Genre il y a un peu trop d'attentats à voiture piégée, quoi.
C'est de là. Si t'as jamais regardé cette attends, comment ça s'appelle, The Looming Tower, qui est le toute la série, je sais pas, je crois que c'est encore sur Prime Video, si je me trompe pas, avec notre cher putain, le mec de Newsroom et de Dumb and Dumber, qu'on ne connaît que lui. Non, tu l'as pas.
Comment il s'appelle, le mec de The Newsroom? Ah, franchement,
le présentateur de The Newsroom.
Ouais, ouais, je sais. Non, mais attends, mais je l'ai pas vu depuis 128 ans.
Jeff Daniels, putain.
Jeff Daniels, d'accord. Ok. J'aimerais vous dire que je couperais ça au montage du podcast, mais c'est faux.
Oui. Qui joue le boss de la CIA et avec Tara Rahim aussi dans cette série.
Ah oui,
et c'est incroyable. C'est les événements qui mènent au 11 septembre. Cette série est incroyable. Et donc, ça commence par un énorme attentat à Mogadiscio sur l'ambassade américaine.
Et ça te donnerait envie personnellement d'être ambassadeur à Mogadiscio?
Bah non, mais en fait, je sais pas si c'est une rêve ou pas, tu vois, parce qu'il y a déjà eu des énormes attentats à l'ambassade des US, quoi. Voilà.
Bah, je pense que, enfin, Mencken, on se souvient quand même qu'il avait ce côté hyper provocateur, hyper chaotique. Et du coup, je pense qu'il y a aussi de ça, d'envoyer Roman proposer ça à son propre frère. Je pense que côté Mencken, si on avait eu le contre-champ, c'est un vrai mouvement de troll et de montrer à quel point il respecte pas Connor, c'est sûr, et bah pas trop Roman, de l'envoyer proposer ça. Et Roman, il le fait premier dog, mais Connor, il le prend premier dog, comme tu dis. Donc bon, je suis là, peut-être qu'il se mérite un peu tous les uns les autres, quoi. Ouais, Mr. Melick dit c'est peut-être pour se débarrasser de Connor, peut-être. Justement. Peut-être, peut-être. Nate est de retour. Il a cette petite interaction rigolote avec Tom qui lui dit qu'il peut boire autant de son vin et que c'est le vin qui identifie les vrais connoisseurs, n'est-ce pas ? De l'œnologie. Et ensuite, c'est l'heure pour Madsen d'arriver à un moment plutôt inopportun puisque Ken a décidé de faire un petit discours. T'en es où sur quand Ken prend la parole en public ? Oh, moi, je suis toujours pas bien.
Le malaise ?
Ouais, toujours.
Big shoes, hein. Vraiment, pour moi, c'est... Ok, guys.
Et en même... J'ai l'impression qu'il là encore, ils s'en sortent pas si mal, tu vois. Oui. Il dit... On est tous là, c'est plus comme avant, mon père n'est plus là, on va faire une minute de silence. Mais ça, il met pas les gens mal à l'aise dans son discours.
Non, mais il y a un moment donné où la carte « Papa est mort » va... partir, tu vois. Donc il va falloir...
Oui, parce mais à pour sa décharge, ça fait une semaine, quoi.
J'avoue.
On oublie, mais bon, ça va vite quand même. Big shoes for Kendall. Moi, j'ai eu un moment où je me suis dit... Mais après, ça marche pas parce qu'on sait que... Parce que Kendall a l'air surpris de voir Madsen, mais je me suis dit, il a entendu que Madsen arrive et il a claqué exprès la minute de silence là pour le faire, le mettre direct dans la sauce à son arrivée, tu vois. Mais... Je pense pas que ça marche parce que du coup, au final, il a l'air vraiment déboussolé par Madsen qui arrive avec toute sa clique en parlant fort et suédois. J'étais tellement contente de le voir dans cet environnement après avoir vu les Américains en Norvège. Scandinavie avec que des champions olympiques de saut alpin et tout. Là, de voir les Suédois arriver, j'étais très très hypée de voir ce qui allait se passer.
Est-ce que t'étais heureuse de revoir Oscar ?
Ouais, mais plus Ebba, elle m'intrigue beaucoup.
Ah ouais ?
Bah Oscar, il m'intéresse, mais il m'a moins intéressé dans cet épisode que dans. Mais je trouve que c'est ça qui est cool, c'est que à part peut-être même Ebba en vrai.
Mais Ebba, elle sert à rien. Enfin, pour moi, Ebba. Alors, je sais pas trop si c'est en rapport avec le fait que elle est sans doute traumatisée par sa relation professionnelle et même peut-être amoureuse avec Madsen. Mais en vrai, t'es censée être une communicante, quoi. Tu vois, t'es vraiment la personne la plus horrible.
La moins communicante de toute la soirée.
Exactement. Pourquoi t'es là ? Enfin, tu vois ?
Alors, je pense qu'elle est bonne dans ce qu'elle fait parce qu'elle dit que c'est elle et son équipe qui ont inventé la légende de Madsen, que c'est même pas un mec qui code et tout, ce qui est très Elon Musk, ce truc de... En fait, c'est un gars qui a récupéré quelque chose et qui l'a bien marketé, comme Steve Jobs n'a jamais inventé aucun produit, etc., tu vois. Donc, je me dis que si elle a réussi à créer Elon Musk, elle est forte dans son métier. Moi, je le vois comme elle est traumatisée, elle a pas envie de traîner avec, mais elle est un peu obligée. Elle dit qu'elle sera barrée dans 6 mois anyway. Et bah, ils n'avaient pas envie de venir fondamentalement les Suédois.
Mais je comprends pas pourquoi il l'a fait venir de cette soirée, tu vois. Pourquoi ne pas. Enfin, tu la convies pas.
Garde tes ennemis plus près. Et pour moi, il y a déjà un truc de tu viens pas sans meuf. Et pour des Suédois égalitaires, il n'y avait pas tant de meufs dans leur équipe. Hein. C'était pas la parité. Et tu gardes près toi la meuf qui peut te porter préjudice. Et un power move toxique de Madsen de l'obliger à... Tu vois, ce truc de tu me détestes et je vais t'obliger à traverser l'Atlantique pour aller à une soirée où tu veux pas aller parce que si c'est moi qui le dis, t'es obligé de le faire, quoi.
Peut-être.
Il y a Navo qui pense l'inverse de moi, qui a dit « Pour moi, c'est possible que Madsen ait entendu que c'était la minute de silence et soit entré en power move. »
Très bonne théorie.
J'aime les deux. J'aime Kendall, mais ça marche pas du coup. Madsen, on n'a pas la preuve que c'est pas ça. Donc, il est capable, clairement. Qu'est-ce que t'as pensé de Shiv qui fait « Oh là là !» Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Mais qui l'a invité ? Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant qu'il est là ? Est-ce que tu penses vraiment que les deux autres, ils se doutent de rien ?
Mais oui.
Ils sont bêtes ?
Oui. Enfin, on le sait depuis le début, non ?
Oui.
On le sait depuis le début de cette série.
Certes.
Roman, il a eu quelques moments de brillance, je trouve, tout au long de la série. Mais sinon, globalement, il est plutôt con du cul, quoi.
Ouais. Et là, il est très,
ah là, il est
ultra
brillant,
cul, cet
hein.
épisode.
Ouais.
Il fait, oui, parce que du coup, ce qu'il a à faire, c'est gérer Connor, essayer de convaincre Connor de prendre une ambassade nulle et essayer de réparer les pots cassés avec Jerry. On va voir que les deux, ça va très bien se passer.
D'ici se rater.
Mais ouais, je trouve que Shiv, comme tu le dis, mais c'est peut-être aussi monté pour mieux chuter comme tous les enfants de succession, elle s'en sort bien dans cet épisode, y compris dans cette scène avec ses frères, où elle bluffe très bien et où elle se retrouve référente de faire naviguer Madsen dans la soirée et lui donner mauvaise réputation, bien sûr, auprès de tout le monde. Elle va faire exactement l'inverse. Est-ce que t'as mieux compris les histoires de régulation quand Madsen y parlait avec Nate ?
Oui, mais surtout j'ai mieux compris quand j'ai compris que Nate... Il venait en tant que représentant du candidat démocrate, parce qu'effectivement les démocrates sont anti-monopole.
Oui.
Et donc et notamment il y a eu plein d'affaires avec Facebook, etc. Il y a une vraie question aux US de démanteler Meta et de faire en sorte de ne plus avoir ce conglomérat énorme qui finit par posséder Facebook, Instagram, WhatsApp et puis plein d'autres choses derrière. Donc, et notamment tous les politiques de gauche sont plutôt favorables à faire en sorte de faire péter les conglomérats. Là où on peut critiquer les États-Unis par plein d'aspects, mais en fait ils sont assez cohérents, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un truc qui fait en sorte de menacer le capitalisme, bah ils vont le flinguer. Et ils vont le flinguer parce que au nom de leur système qui est finalement qui est la liberté individuelle en fait, qui domine tout en fait. Qui régit tout.
La loi du marché.
Exactement.
Que va dire le board ? Que vont dire les actionnaires ? Ouais. Il faut que le marché grandisse. Il me semble qu'il y a aussi une histoire d'utilisation des données.
Oui.
Il me semble que Nate, il dit un truc genre, on n'a pas forcément envie que n'importe qui... Enfin, on s'inquiète un peu que vous siphonniez toutes nos données. Et donc, l'argument de Madsen, c'est... Quelqu'un va le faire anyway. Parce qu'il lui dit un truc genre, dans tous les cas, les assets sont là et quelqu'un va mettre la main dessus. Est-ce que vous préférez que ce soit moi ou que ce soit les Failson, ils les appellent les fils foireux, quoi. Et ils vont faire comme lui, donc comme Logan. C'est tout ce truc dont tout le monde sait de qui il parle, tu vois, même s'il n'a pas besoin de le dire, mais en moins bien, alors que lui, il va faire différemment. Donc c'est sa plaidoirie auprès de Nate. Et il s'en sort pas si mal pour un mec qu'on sait être extrêmement fracasse. Ouais. Je lui dirai qu'il s'en sort pas si mal. Et juste après, il y a Kendall qui fait ça. Version de pourquoi tu devrais voter pour moi à Nate. Qu'est-ce que t'as pensé de cette scène entre Nate et Kendall ? Est-ce que tu te souviens un peu de ce qui se dit ?
Bah oui, parce que lui, il arrive. En fait, c'est terrible parce que pour moi, il est d'ores et déjà en train de vouloir faire comme papa et d'expliquer à Nate, sans prendre trop de pincettes, que en fait, comment dire, ça peut l'arranger éventuellement. Si ça peut l'arranger, s'ils peuvent trouver un deal, en fait, ils peuvent faire changer la ligne édito d'ATN sans aucun problème.
Plus douce en tout cas avec les démocrates, quoi.
Et en fait, sur le moment, je crois que Nate, il est plutôt. Enfin, il se mouille pas trop, mais il est là, ok, frère. Et en fait, c'est dans un deuxième temps où juste avant de se retrouver pour partir, parce que Nate se rend compte qu'il faut peut-être se barrer parce que.
Peut-être c'est pas bien d'être là.
C'est mal vu d'être trop longtemps là. C'est là qu'il lui dit écoute, je suis pas Jill et en fait t'es pas Logan et en fait c'est très bien comme ça.
Et dingue ça, comme phrase, non ?
La phrase est dingue et la gueule de Jeremy Strong à ce moment-là, elle est dingue aussi, quoi. C'est vraiment là, t'as vraiment en face de toi un miroir qui est en train de te dire arrête de vouloir faire comme ton père, soit toi-même en fait, soit ton propre persona, n'est-ce pas ?
Oui, et Kendall, il dit parfois ce truc de « on est la nouvelle génération, on peut faire les choses différemment », mais
avant,
il
hein.
le pense... Bah, même avec... Bah, bizarrement, quand il essaye d'encourager Roman, qui vient de licencier Jerry et Joy dans l'épisode d'avant, il lui dit « ouais, les deux enfants terribles qui changent les choses au sommet et tout ». Et là, il est en face du fait que Nate, c'est une vraie personne de la nouvelle génération qui lui dit « bah, je suis même pas comme mon propre mentor », tu vois, genre, il s'inclut dedans, je trouve ça intéressant qu'il lui dise pas juste « t'es pas Logan et tant mieux », il dit « je suis pas Gil non plus, c'est... Je veux pas travailler comme ces gens travaillaient en faisant des deals dans des couloirs avec entre des patrons de télé et des communicants politiques. » Et c'est, il lui dit, je suis mal à l'aise avec la tournure de cette conversation, qui est un truc très légal, tu vois, de
oui.
No comment, je veux m'extraire de
Au
cette situation.
Au cas où tu es en train d'enregistrer avec ton téléphone.
Un peu, il y a Jerry qui l'a briefé quelque part, tu vois. Et c'est un truc que j'ai évidemment déjà écouté 5 podcasts différents sur cet épisode. Et un truc que j'ai entendu beaucoup revenir, c'est cette idée que les enfants Roy, ils savent pas comment réagir quand ils sont confrontés à quelqu'un qui a un système de valeurs efficace.
Oui.
Et en fait, la réponse, bah non, parce que c'est pas bien. Ils l'intègrent pas du tout. Et ce truc de pas être comme Logan, c'est bien. C'est peut-être la première fois que quelqu'un dit t'es pas ton père de façon positive. Généralement,
mais en fait,
quand
pour
on
moi,
dit à Kendall, c'est plutôt calme-toi, t'es pas ton daron, tu vois.
Non, mais pour moi, c'est plutôt. En fait, pour moi, Kendall, il était vraiment vouloir incarner la nouvelle génération quand son père était à la tête.
Oui.
Et c'était d'ailleurs tout son truc, tu vois, quand il a tenté de réunir les frangins dans la fameuse chambre
de sa fille.
C'était ok, en fait, on a des valeurs et on peut faire en sorte de faire les choses mieux, etc. Mais ça, c'était avant. Le vieux a canné maintenant et en fait, il va falloir passer de la théorie à la pratique et c'est pas simple.
Et Mister Melik dans le chat rappelle, comme Tom disait à Greg, personne n'a de principe, arrête de me parler de principe. Mmh. Je crois que d'ailleurs c'était dans le dernier épisode très politique, ça devait être dans l'épisode où ils choisissaient le candidat républicain en soum-soum, pas dans les cérémonies officielles.
Dans la salle de bain.
Oui.
Avec Menken.
Dans les chiottes, hein, toujours une bonne thématique chiottes. Quid de Shiv et Madson au vestiaire? Cette petite pause où Shiv, elle lui dit qu'il bosse bien, mais elle, enfin qu'il s'en sort bien, mais elle lui dit aussi « Eh oh ». Qu'est-ce que j'ai, moi?
Bah ça y est.
Contre TD.
Enfin, elle montre son vrai visage, parce que jusque-là, elle avait rien demandé.
Mm-hmm.
Elle était juste au service, etc. Et d'ailleurs, elle
Comme Tom. I live to serve.
I am to serve. Exactement. Et enfin, elle montre son vrai visage et qu'elle dit « Ok, mec, je suis en train de la faire à l'envers à mes frangins et tout. Il y a un moment donné, il va falloir que ce coup de main-là que je suis en train de t'offrir, il va falloir que ça se paye. » Et elle lui dit « Genre, j'ai besoin d'avoir un poste très, très, très... »
Very, very, very
important. En gros, elle est en train de dire « Bah, mets-moi à la tête de Waystar, quoi. »
Elle veut être PDG, elle veut le top job, tout à fait. Elle lui dit « I'm hot shit and I'm ready to go
».
Elle dit « Je connais la boîte ». Alors, elle dit « Je la connais par cœur et tout ». Je suis là « Pas du tout,
rien
c'est
du
faux ». Elle
tout.
Dit « J'ai le nom », ce qui est vrai, elle a le nom de famille. Et en gros, est-ce que tu penses que c'est trop gros, trop vite? Est-ce que tu penses qu'elle vise trop haut? Est-ce que... Quid de ce move de Shiv qui non seulement arrive et dit « Je veux quelque chose en échange de mon aide », ce qui est « Ok ». Et Madson, il est là « Ouais, ok, enfin, d'accord, dis-moi ce que tu veux, moi j'aime bien bosser avec toi ». Et qui immédiatement est là « Je veux le gros truc, le plus gros truc, tout de suite, pour moi ».
Je crois qu'à ce moment-là, Madson se rend compte de qui il a en face d'elle et que « Ok, donc en fait, tu penses vraiment être capable de pouvoir prendre ce job-là ». Et je crois qu'il est bien conscient qu'elle n'est pas capable de le faire.
Je sais même pas s'il s'intéresse à ce qu'elle est capable ou pas. Je pense juste qu'il veut pas travailler. Enfin, en fait, tu rachètes pas une boîte. Pour moi, Shiv, elle a une seule utilité pour lui et c'est l'aider à naviguer ce deal et à avoir une oreille dans la pièce quand ses frères essayent de la lui faire à l'envers. Je pense pas du tout qu'il veut continuer à travailler avec elle une fois que le rachat est fait. Et d'ailleurs, on sait qu'il compte à peu près démanteler Waystar en entier. Que ATN, il s'en fout et il veut rendre tout ça assez neutre.
La transformer
neutre,
en Bloomberg,
quoi.
En fait.
Ouais, donc j'allais dire insipide, c'est peut-être insultant pour Bloomberg, mais en tout cas quelque chose de beaucoup moins radical. Et je pense qu'il a aucune envie de continuer à bosser avec Shiv plus longtemps que ça, et que même, en fait, pour lui, il est là, mais il faut couper les ponts, tu vois. Il est pas à l'aise avec cette histoire d'entreprise familiale, avec ce truc de népotisme et tout. Donc, au-delà de est-ce qu'elle est capable ou pas, je pense que pour lui, c'est un
c'est
non.
Possible.
Et... Pour moi, c'est Shiv, c'est l'équivalent Shiv et Madson de quand Shiv allait chez les pires, c'est qu'elle dit devant tout le monde « C'est bon papa, dis-leur que c'est moi !» Et je suis là « Girl, tu surjoues ta chance, tu en fais trop !»
C'était moins malaisant quand même ce moment entre Madson et Shiv.
Bah parce qu'au moins, ils sont en tête à tête et qu'elle se prend pas une porte en frontale. Il lui dit pas non.
Et surtout, il lui dit pas non, c'est-à-dire que en fait, à aucun moment... Contrairement à Logan qui ne répond pas pendant cette fameuse scène, il lui dit « Ok, laisse-moi réfléchir ».
Oui.
Il est malin quand même, le médecin.
Oui, bah en même temps, dans sa tête, d'ici Inch'Allah 10 jours, il n'a plus à gérer toute cette famille de gens bizarres, donc ça tombe pas mal. Pour moi, c'est Shiv qui se crame. Elle a cramé sa chance et elle a prouvé qu'elle n'est pas une personne sérieuse, elle ne sait pas faire du business comme ça. Et en fait, je pense que tu ne peux pas demander autant pour ce qu'elle a fait, qui est pour l'instant pas grand-chose. Enfin, c'est beaucoup d'avoir une girl on the inside, comme il dit, mais elle a pas fait arriver ou pas arriver le deal, quoi. Redescendons peut-être, Chauvane.
Oui.
Elle redescend assez peu. Alors, il y a Stinian qui dit, c'est ouf que personne ne remarque que Shiv et Madson vont très souvent parler à l'écart, ou alors personne ne se pose de questions. Squaza me rappelle que Ken et Roman lui ont demandé d'escorter Madson toute la soirée, donc en effet, ça le fait. Et aussi, c'est chez elle. Je pense qu'elle est vraiment dans son environnement et elle sait s'esquiver s'il faut. Enfin, ça a l'air d'être une grande, grande, grande surface. Donc, je pense que c'est pas aussi cramé que ça, quoi. Les Suédois font contre-soirée. Avec de la weed et de la misogynie.
Oui.
Et du coup, Greg est dans son élément.
Oui, je comprends pas pourquoi, encore une fois, Roman et... C'est Ken, non, qui demande à Greg d'aller s'incruster pour voir un petit peu ce qu'il se raconte. Et en fait, Greg, il a raison. Il dit, bah, il me déteste.
Oui, et il l'avait déjà dit à Tom plus tôt. Il était là, en fait, je peux pas être Team Madson parce qu'il m'aime pas, donc je suis Team Kendall Roman par défaut, quoi. Au moins, il est lucide. En effet, les Suédois le détestent, ils lui ont bien fait comprendre quand même.
Et ça va pas durer très longtemps parce que on arrive à se retrouver sur de la fuckerie finalement entre entre fuckboy.
Mais tous ces gens sur internet qui font des posts Reddit comment me faire des amis, eh bien licenciez des centaines de personnes et vous serez la star des soirées visiblement.
Waouh.
En tout cas des soirées avec les gens qui comptent et les puissants de ce monde.
Incroyable. Et Oscar est d'une violence envers lui au départ.
Ouais, il crache sa fumée à la gueule, il l'insulte et tout. Mais au moins je suis là, bah il est honnête, tu vois. Alors on a l'info qu'il est déjà def.
Oui.
Parce qu'il est arrivé, il était déjà sous Edible, donc ça avait kick. Et au moins, il est honnête et transparent sur « Mec, je te déteste, je te méprise, tu n'as rien à foutre là. »
Je trouve qu'il y a un côté très européen aussi dans la façon de les représenter, les Suédois et les Allemands, c'est d'une manière générale où, en fait, ils ne vont pas prendre de pincettes, les Allemands, ils vont dire les choses telles qu'ils les pensent,
etc. Oui, les peuples
pensent,
du Nord, ça y va, quoi.
Là où, aux États-Unis, culturellement, on a plutôt tendance à mettre les formes, et « You're amazing », machin. Je trouve ça marrant toujours de voir à quel point ils n'ont pas le time, quoi. Et d'ailleurs, les trois Suédois n'ont pas le time. Eba non plus, elle n'a pas le time.
Ah bah, Eba, c'est le moment où elle se casse après des plaisanteries sur le fait que, tiens, peut-être que ce mec-là, il peut te virer.
Horrible, devant tout le monde en plus.
Ouais,
quel malaise.
Pas sur son turf, alors qu'elle est déjà pas bien, pour X raisons d'être dans cette soirée, soit parce qu'elle fait de l'anxiété sociale, soit parce que ce mec est un maboule, soit parce qu'elle est harcelée au travail, enfin, pour beaucoup de choses. J'ai vu passer sur Reddit, mais je... C'est plus à quel point c'était sourcé, donc je vous le donne avec des pincettes. Qu'il y aurait une scène coupée où c'est mentionné qu'Eba, elle a fait 6 mois en hôpital psy. A priori, peut-être à cause de Madson. Donc en vrai, elle est.
C'est mentionné où ?
Il y a des scénars qui traînent et des scènes qui avaient été tournées, des acteurs qui disent j'ai tourné telle scène qui n'a pas été mise dans le truc. Et là, comme en plus, c'est des acteurs scandinaves, ils font des interviews pour des médias que scandinaves, ou c'est du coup des gens qui traduisent comme ils peuvent.
Ah oui.
Vous connaissez Internet, les fandoms, c'est un monde qui ne change pas tant. Finalement, on est toujours en train de mal traduire des articles dans des langages qu'on parle pas. Donc, il y aurait une scène où elle dit qu'elle a fait 6 mois d'hôpital psy, ce qui expliquerait un peu aussi son état. Il y a débat dans le chat sur est-ce que c'est du second degré ou pas l'admiration des Suédois quand Greg leur dit qu'il a viré une centaine de gens. Tamish dit après coup ils se rendent compte que Greg compte dans le sens où il sait pas mal de choses plus il sait faire le sale boulot. Navo dit c'est une des forces de Greg, il est indéboulonnable et il renvoie les vannes, c'est ça qui plaît aux Suédois. Du coup, est-ce que tu penses qu'ils sont vraiment, est-ce que tu penses qu'ils le font marcher en faisant semblant d'être impressionnés, ou est-ce qu'ils sont en mode ah ok.
Ok, pour moi il a gagné ses... franchement mec, t'es en train de virer 100 personnes, t'as gagné tes galons quoi.
Ok, il a gagné sa place à la table, à la contre-soirée des cool kids.
Parce que la preuve, il est horrible au départ. Enfin, Oscar est horrible avec lui. Et en fait, quand il vient s'asseoir et tout, à la fin, il finit par vraiment discuter avec lui. Et discuter avec lui... Enfin, pour moi, il ferait pas ça. Il serait juste... il continuerait à le roster de ouf, quoi. Si vraiment...
Oui, même quand Madson part, Oscar parle avec lui. Je pense que Greg a au moins piqué leur intérêt. Et qu'il est à la fois utile parce que... Ah, ok, il y a un mec... dans la boîte et même dans la famille qui est complètement à l'aise avec licencier des centaines de personnes, bah ça peut nous être utile.
Et surtout, faut jamais oublier qu'il y a un truc, c'est que le droit du travail en Europe est beaucoup plus protecteur des salariés. Oui. Et en fait, il y a un truc dingue de pouvoir virer entre guillemets sans salarié d'un coup.
C'est vrai, excitant peut-être. Ah, oh, tu peux faire ça. Attends, possible. Et tu le fais juste sur Zoom et après tu t'en fous. Madson lui demande si c'était difficile et s'il est une bonne... Alors, il lui demande pas s'il est une bonne personne. Il lui dit... Je crois qu'il lui dit... t'es pas une bonne... You're not a very good person. Et Greg dit si les RH disent que je suis parfait pour le job parce que on dirait que ça l'intéresse, mais en fait non.
Quelle joie.
Pendant ce temps, Eba va fumer une petite clope sur le balcon.
Eh oui.
Et Vlatipa, que les deux frères les plus empathiques. Alors déjà, oh oui. Moi j'ai une take, mais c'est peut-être un truc américain qui est que ce balcon est extrêmement vide. Il devrait y avoir des gens qui fument des clopes sur ce balcon ou qui fument des trucs divers et variés. C'est une soirée à 40-50 personnes et le balcon est 100% vide tout le
mais
temps.
Ça fume
moi
pas
j'y crois
aux US.
Pas. Je pense pas qu'ils fument pas ces gens-là, tu vois. Mais... Enfin, je pense pas que dans ces gens-là, il y a personne qui fume. Mais bon, c'est pour ça que je dis c'est peut-être
pour moi, y a
très
un truc...
européen de ma part.
Pour moi, il y a un truc aux US, en fait, et notamment dans tout ce milieu, ils ont bien compris que le tabac, c'était pas bon
c'est
pour
tabou.
La santé. Et en fait, bah, de ce fait-là, ils ont tous arrêté de fumer. Surtout qu'en plus, c'est des
Une
personnes,
vape,
c'est des personnes assez âgées, quoi, tu vois, d'une manière générale. Je crois que la moyenne d'âge,
c'est vrai que c'est pas une soirée de zoomer.
Voilà. je crois que la moyenne d'âge, elle est assez haute, tu vois. Donc souvent, à partir de 35-40 ans, tu vois, tu te dis, ok, peut-être qu'il est temps d'arrêter la clope.
Mais
nan,
même,
nan,
tu
nan.
Vois, tu veux faire une petite contre-soirée confidence sur le balcon. Tu sais pas, j'ai trouvé ces balcons oui. très vides, mais ça donne l'occasion à Eba de fumer une clope avec le soutien moral et empathique de Kendall et
oh là
Roman
là.
Roy qui viennent humainement s'enquérir de « Est-ce que ça va ?» Qu'est-ce que t'as pensé de cette scène entre Eba et Tic et Tac ?
Enfin, ils sont nuls, comme d'habitude. ils se sont trouvés nuls. Et en fait, heureusement qu'ils se retrouvent avec Eba qui déteste Madson, parce que sinon... c'est trop drôle d'ailleurs, parce qu'elle leur dit « Bah, vous croyez que je vais vous cracher le morceau aussi facilement ?» Et elle le fait, en fait, parce que,
plus tard.
Bien sûr, elle déteste totalement Madson, donc c'était facile. Mais ouais, c'est un bon move de leur part, même si, en fait, tactiquement, la façon de l'amener est vraiment... Ils
ouais,
viennent avec leurs
subtil,
énormes
hein.
sabots.
Ils arrivent
quoi.
À deux, limite, ils la corner comme une biche dans le coin et tout. Je suis là, mais vous avez jamais interagi avec une femme de votre vie, enfin, peut-être pas assez. Mais ça marche, et donc, ils amènent le sujet de « Ah oui, c'est parce que Madson, il envoie des trucs bizarres », et elle dit « Oula, ça, c'est le dernier de ses soucis. C'est les chiffres de l'Inde, le problème. Mmh. » Mmh. Est-ce qu'à ce moment-là, t'as compris direct qu'il gonflait
ah oui.
des chiffres ?
Bah pour moi, en fait, en plus, ça rejoint un petit peu toutes les embrouilles qu'il y a eu avec Facebook qui gonflait les chiffres de vidéos vues
oui,
pour faire en sorte d'arnaquer le marché publicitaire. Ça, on n'en parle pas trop et d'une manière générale, le grand public ne l'a pas su. Mais Facebook, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas, je ne crois pas, mais Facebook a vraiment gonflé et surgonflé à l'époque où il voulait devenir le YouTube.
Oui, souvenez-vous, le pivot to vidéo.
Voilà, ils ont surgonflé leur chiffre de vidéos vues dans un seul but, c'était déjà de pouvoir dire qu'on fait beaucoup plus de vidéos vues que YouTube, et surtout pour faire casquer un maximum. Et je n'ai plus en tête l'équivalent, ils ont eu une amende aux US, mais c'était pas une assez grosse amende en fait, globalement. Et c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles aux US ils veulent vraiment démanteler Meta, quoi, parce qu'il y a.
Il y a un historique.
Ouais. Disons que ça m'étonne pas à ce moment-là que juste Gojo pipote, tu vois, scénaristiquement, c'est pas complètement à côté de la plaque, quoi.
Oui, c'est un truc classique, entre guillemets. Je sais que c'est des questions qui se poseraient souvent avec Netflix aussi, de qu'est-ce que ça veut dire des vues sur Netflix. Mmh. Quand ils disent qu'on a tant millions de spectateurs, qu'est-ce que ça signifie réellement? C'est des métriques qui sont compliquées. J'arrive toujours pas vraiment à comprendre ce que Gojo fait, parce que du coup, c'est du streaming, mais qu'il n'y a pas du bon contenu, parce que l'idée,
Pour moi, c'est Facebook, Gojo.
Ah ouais, ok, mais il n'y a pas... En fait, j'ai pas l'aspect réseau social. Tu vois, ils parlent jamais des users, ils parlent... Enfin, j'arrive pas exactement à comprendre ce qu'ils font, mais peut-être qu'effectivement c'est une forme de réseau
social. Pour moi c'est juste un réseau social où en fait ils font du streaming, mais tu vois, comme Facebook fait du streaming aussi, quoi, tu vois.
Oui, ok, je vois. Ok, ça se tient. Et donc les chiffres de l'Inde, alors immédiatement les garçons le disent à Shiv, ils sont là, ok, on le tient, ils pipotent sur ces chiffres en Inde et tout, ça c'est sûr que
et bien sûr
pour l'angle des régulations ça va le faire tomber. Et Shiv elle est là... Yes.
Ah bah...
Shiv en sueur.
Oui, elle a bien dans l'os.
La veine là, et elle va immédiatement le chercher. Pour le coup, elle se dit pas, je vais garder l'info pour... Enfin, il n'y a pas trop d'hésitation, ah, je vais le chercher, et je vais lui demander c'est quoi ta merde avec les chiffres de l'Inde, quoi.
Pourquoi elle lui cacherait ?
Parfois,
elle
je
a
me
une
dis
énorme
ça vaut
carte
le coup
à jouer.
De prendre une demi-heure pour réfléchir à est-ce que je lui sors maintenant et pourquoi, tu vois. C'est, en gros, elle la joue pour vérifier qu'il lui ment. Bon, bah, du coup, elle sait qu'il lui ment. Mais pour moi, elle la joue un peu par panique. Elle, bah, en fait, elle fait un truc très normal et transparent, qui est qu'elle va le voir, et elle est là. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu m'as menti? Et c'est tout. Ce qui est un truc normal à faire dans la vie, mais pas dans Succession. Du coup, j'étais là. Ok, bah, les garçons, ils vont direct dire à Shiv, il fait ça. Et Shiv, elle va lui dire, est-ce que tu fais ça? Et lui, il dit globalement, oui, je fais ça.
Pour moi, c'est pour lui mettre son nez dans son caca aussi. Et pour
ouais,
voir.
Ça le calme un peu. Ouais.
Voilà. Et pour voir un petit peu s'il est vraiment en train, enfin, s'il est valable ou pas. Et de voir un petit peu, ok mec, c'est quoi ces histoires? Est-ce que c'est cette meuf qui te déteste qui a raconté des bobards à mes frères? Parce qu'il y a peut-être ça aussi, hein.
Alors elle lui confirme pas, il demande est-ce que c'est Eba ou Oscar, et elle lui fait une tête genre mec, comme si j'allais te le dire. Et en même temps une tête genre mec,
ah non, non, ce que je veux dire c'est que elle vient vérifier quand même l'info par rapport à ce que Kendall et Roman viennent lui
elle,
raconter.
Elle sait que ça vient de Eba, oui. Donc elle se dit, oui. Peut-être qu'elle
peut-être
est biaisée.
C'est pipo.
Il y a des gens sur Internet et sur Reddit qui croient que c'est un long game de Eba et Madson qui ont fait exprès de se mettre d'accord sur une histoire pour en gros voir qui raconte quoi à qui et que c'est pas vrai cette histoire de chiffre de l'Inde. Moi, je pense pas que c'est ce genre de série Succession.
De quoi?
Bah, qu'en
non,
gros...
Bah, t'as vu comment il réagit, Madson? Il réagit comme un enfant.
Oui, oui, je sais. Et pour
pris
moi, c'est très limpide de... Bah non, c'est un faux génie,
bah, oui.
Vrai connard qui mitonne sur ses chiffres comme... D'autres faux génies, vrais connards, milliardaires vont m'étonner sur des chiffres et autre chose, quoi. Donc, je pense. Mais je mentionne quand même. Il y a des gens qui pensent que, comme ça, comme il y avait des gens qui pensaient que Shiv était enceinte, j'étais là, mais pas du tout. Et à la fin, eh bien si. Donc, comme ça, si à l'épisode d'après, on apprend que, haha, Scooby-Doo, les chiffres de l'Inde, c'était un mensonge, vous pourrez dire, je l'avais entendu dans le podcast de Mimi, et à la fin, les gens, ils retiennent juste, ah oui, Mimi, elle est un peu visionnaire, alors que c'est pas du tout moi. Mais ça, en vrai, j'y crois pas. Donc, pas trop. Navo dit Gojo, c'est Netflix, ça coûte 9,99$, ça stream. Oui, c'est vrai, Nate, il dit à Madson, je te lâche mes 9$ par mois,
ah oui.
Je suis pas, I'm not a hater. Et ils disent qu'ils ont du sport aussi, donc il y a peut-être ça que Netflix a pas, le streaming de sport, de match, etc. Voilà.
Maybe. T'as raison, sans doute, Navo.
Roman essaye d'aller voir Jerry pour avoir des conseils.
Oh là là.
Déjà, une décision de vie audacieuse de la part de Romulus Roy. Jerry, selon les mots de Frank, est incredibly angry.
Bien sûr.
Qu'est-ce que t'as pensé déjà de Roman qui vire Jerry dans l'épisode précédent et de cette nouvelle confrontation?
Bah pour moi, dans l'épisode précédent, Roman, il faut juste qu'il aille faire dodo, quoi. Tu vois, c'est vraiment. Enfin, je sais pas ce qui se passe dans l'épisode précédent.
J'allais dire consulter, mais d'abord dodo et après consulter.
Ouais, tu vois, prendre un peu le temps de faire le deuil de papa, quoi. Tu vois.
Oui. Tamish dans le chat dit Roman me peine, il est perdu au max. À un moment, le deuil, c'est pas une option.
Voilà.
Oui, tu peux le fuir, mais il va venir.
Ouais, whatever, il viendra. Ne fuis pas. Et en fait, je comprends pas pourquoi il vire Jerry à ce moment-là, mais pour moi, c'est juste, il est juste, en fait, il déteste être contredit comme un enfant gâté, en fait, tu vois, qui, bah non, en fait, bah si t'es pas d'accord avec moi, et bah je te vire, voilà.
Oui.
Et effectivement, il essaie de se rabibocher avec Jerry parce qu'il se rend bien compte que c'était vraiment une connerie potentiellement de faire ça. Et surtout, vu les doses que Jerry a, pas seulement sur sa tub, mais sur toute la boîte. Parce qu'elle est là depuis des millénaires, la meuf. Donc, elle a tous les doses. Elle pourrait écrire un bouquin sur Waystar.
Est-ce que Kendall, il sait que Jerry, elle a des dick pics de Roman? Je crois pas, hein.
Bonne question.
Shiv, elle sait. Parce que Shiv, elle était allée parler à Jerry en mode...
Oui.
Alors, c'est arrivé à plusieurs reprises. Est-ce que je veux prévenir les RH? Et Jerry, elle était là. Un, je te dis rien à toi. Mais Kendall, il a peut-être pas l'info que
très
Roman,
possible.
Il a licencié une meuf qui a des dick pics de lui. Après, il reste que 3 épisodes, tu vois. Il y a un moment, on peut pas tout faire. Donc peut-être que ça reviendra pas. Mais tout comme je sais qui sait que Kendall a tué quelqu'un, je sais qui sait que Jerry a des dick pics de Roman et je suis pas sûre que Kendall.
Non, t'as raison.
Que Daddy Ken ait l'info.
Et en fait, Jerry dit bah, ça va te coûter super cher. Genre, je veux des centaines de millions de dollars.
C'est beaucoup, des centaines de millions de dollars.
C'est énormément d'argent.
Ouais. Dans Decoding TV, un des podcasts que j'écoute, le mec a fait une comparaison avec, donc David Chen, l'animateur, a fait une comparaison avec divers payouts de gros patrons, mais genre de Disney et tout. Mmh. Et il était là, en vrai, la somme, elle est abusée. Genre, le patron actuel de Google, il gagne des centaines de millions de dollars et c'est le patron actuel de Google, pas la chef du juridique de Fox
Là, elle est DG, là, en plus. En
oui, pardon, ou la DG par intérim. Bah non, elle est plus DG, c'est les garçons qui sont
oui, mais...
PDG. Donc,
oui.
Enfin, je sais plus ce qu'elle est, mais bon. C'est... Il a été là des dizaines de millions de dollars, ok, des centaines de millions. Soit, effectivement, c'est une façon de montrer qu'elle va les saigner à blanc parce oui. qu'elle a des munitions. Soit, c'est
pour
peut-être
moi, c'est
aussi
ça.
Les auteurs qui sont...
Non, non, pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment, en fait, mec... Tu m'as pas respecté, t'es en train de pas me respecter, tu continues à pas me respecter. On se connaît depuis des années et en fait tu me fais ça, bah en fait je vais te saigner quoi.
Et elle lui dit très clairement, parmi les armes que j'hésiterais pas à utiliser, si tu fais quoi que ce soit que j'aime pas pendant 5 ans, c'est les nombreuses photos de tes parties génitales que j'ai en ma possession. Et elle lui dit cette phrase terrible, j'aurais pu t'amener là,
ouais.
mais non. Incroyable ou pas ?
Ça, cette phrase est géniale. Vraiment, pour moi, ça prouve à quel point ces gens sont incapables de faire confiance à des... Et tu vois, notamment à Jerry, parce que Jerry, elle est dans le game depuis tellement longtemps, en fait. T'as juste à piggyback sur Jerry, quoi. T'as juste à te mettre sur son dos et à dire « Allez, montre-moi où il faut aller maintenant, et puis je viens avec toi. » Et c'est tout.
Dieu sait que je pense que Logan, il s'est bien appuyé sur elle,
oui.
sans problème. Hein,
oui.
Donc, si Roman avait vraiment appris de son père, il aurait misé sur... Qu'est-ce que Jerry peut lui apporter ?
Ils sont incapables de faire confiance, donc
oui.
forcément.
Et c'est un peu l'épisode où les gens sont très honnêtes avec eux, de plus en plus depuis la mort de Logan, mais où les gens leur
Normal.
Tu vois, que ça soit Tom avec Shiv, ça va arriver. Il y a une scène entre Frank et Kendall qui est intéressante aussi. Nate qui dit à
dans
Kendall...
Dans l'épisode dernier, là, je te tiens par les couilles. Tu me tiens par
Carl. Carl et Kendall, oui.
Ah oui, pardon.
Oui, tu me tiens peut-être par les couilles, mais moi aussi. Et je sais un truc ou deux sur un truc ou deux. C'est ma réplique. Bref, I know a thing or two about a thing or two. J'adore Carl.
C'est génial.
J'ai écouté un podcast où les deux invités, c'était les acteurs qui jouent Frank et Carl, et ils étaient ensemble et ils chillaient trop en répondant aux questions et tout, c'était trop bien.
Non, tu parles de Frank et Kendall qui se retrouvent en
dans
tête-à-tête.
Épisode, dans là, cet épisode-là, il y a un petit tête-à-tête, mais il y a Nate qui a dit à Kendall, tu n'es pas Logan et c'est bien. Enfin, c'est vraiment, les gens leur disent les choses de plus en plus clairement et ils sont incapables de les imprimer.
Mais leur père est mort. Enfin, tu vois, leur père est mort depuis une semaine. Enfin, même pas. On sait même pas combien. Depuis 4 jours, c'est ça, 5 jours, là.
Bah, en vrai, du coup, ouais, ça doit faire 8 jours. Parce que c'est rien qu'avec les voyages en Suède et en Norvège et tout, tu peux pas.
Oui, c'est ça.
Tu peux pas faire un jour par épisode.
C'est
en tout cas, il y a des. Entre deux épisodes, parfois, il y a un ou deux jours qu'on voit pas.
Parce que c'est quoi? C'est à peu près une semaine entre la mort et l'enterrement.
Oui,
souvent,
c'est
ça
rarement
joue comme
plus,
ça.
Hein, je pense. Surtout ouais. que là, il y a. Il y a peu de doutes sur la cause de la mort, il n'y a pas besoin de faire une autopsie, tout ça. Donc, on va arriver assez vite aux funérailles de Logan avec un discours qui promet d'être quality content, puisque Roman, qui est en charge de ce discours, comme on va bientôt l'apprendre, décide de digérer sa peine de Jerry en allant embrouiller son frère aîné, qui est quand même, souvenons-nous, une de ses seules sources de souvenirs heureux en famille, c'est Connor. À un moment, il doit raconter un souvenir heureux avec Logan et il raconte quand Connor l'a emmené pêcher parce qu'il a pas de souvenir heureux avec Logan. Souvenez-vous, c'était horrible. Et il va juste essayer de conclure le deal pour Menken s'il a pas réussi avec Jerry. Comment ça se passe?
Bah, en fait, il tire sur Connor parce que Connor est pas d'accord. Et en fait, oui, là, c'est à ce moment-là, on est bien d'accord. C'est le moment où Connor dit, eh bien, écoute, j'en ai parlé avec ma femme. Et avec ma femme, on s'est dit que, en fait, c'était pas un bon deal et qu'il fallait que je continue, etc. Et tu sens que Willa est hyper supportive en plus.
Ouais.
Et Roman est horrible avec elle. Il lui tire dessus.
Ah
encore
bah,
une fois.
Il dit les petites lignes à voix haute. Hein.
Horrible, quoi.
Mais très cruel parce qu'il lui dit tout le monde dit personne te prend au sérieux ici, c'est le mieux que tu pourras jamais faire, etc. Et Connor, il se laisse pas démonter.
Mm.
Et il dit, c'est quoi, il y a une personne ici qui me prend au sérieux. Et du coup, bah, je vais l'écouter. J'étais là. Oh.
Bah oui.
What a good guy.
Bien sûr.
Alors que non, pas du tout. Connor est aussi odieux, mais moins que les autres.
Connor, il est odieux. Connor, il est pas odieux.
Non, mais son programme politique, c'est quand même d'annuler les impôts pour les riches.
D'accord. Non, non, je parlais
c'est une
de...
personne odieuse dans ses valeurs,
je
mais pas
par
avec
rapport
les
à... Oui, voilà, ok. Je parlais
et pas
par
avec
rapport
ses frères et sœurs.
Voilà, c'est ça.
Même là, il engueule pas Roman.
Non.
Et du coup, il y a un monde où Willa a peut-être sauvé la démocratie et la République américaine, puisque c'est peut-être elle qui a convaincu Connor de pas donner les derniers pourcents à Menken, on ne sait pas encore. Mais peut-être que grâce à Willa, et grâce au fait que les proches de Willa, ils aiment pas Menken, et qu'elle n'ait pas envie, alors les gens disent, elle a pas envie d'aller en Corée du Nord, c'est vrai, mais elle a aussi des petites questions sur Oman, genre la place des femmes et tout, tu vois, c'est pas clairement amené, mais elle est là, Ah tiens, le mot du sultan fait loi. Est-ce qu'on va vivre sous terre ?
On n'a pas envie d'être là.
Donc, au-delà de ses valeurs politiques qu'on ne connaît pas exactement, il y a aussi son intérêt personnel qui joue. Mais merci à Willa d'avoir pas donné les pourcents de Connor à Menken. C'est toujours ça qu'il n'aura pas, même s'il gagne à la fin. Il y a Tammy Schmisch qui dit « Je pense que l'enterrement aura lieu pendant le dernier épisode, mais juste parce que j'ai essayé d'interpréter probablement mal les titres des épisodes. » Moi, je pense que c'est épisode 8, élection. C'est le prochain, il s'appelle « America Decides ». Donc bon. Épisode 9, funérailles. Et épisode 10, je sais pas. C'est le final, il fait 1h30. Et pour moi, ce sera genre
l'épilogue.
La gueule de bois des funérailles. Ouais, l'épilogue. Ouais. Je suis pas sûre qu'ils vont mélanger funérailles et dernier épisode. La petite complicité Willa Connor, ça m'a réchauffé le cœur après leur scène mignonne pendant le mariage. Oui, bah oui, voilà, c'est la relation la plus saine qu'on peut avoir dans Succession. C'est Willa et Connor et on s'y attendait pas, mais pourquoi pas. Madson et Kendall font un petit rap Contenders en plein milieu de la soirée. Ça part en clash. Qu'est-ce qui se passe avec Madson ? Qu'est-ce qu'il fait ? C'est quoi ses moves ?
Bah en fait, Madson, bah pour moi, il en a rien à foutre. Comme depuis le début, c'est-à-dire que juste il dit ce qu'il pense et il le dit tout haut et peu importe les conséquences, comme il a jamais eu à les payer jusque-là.
Ouais, mais je trouve qu'il est nul. Genre il lui dit tes chiffres sont gays, genre ça répartit, c'est dire moi j'ai vu tous les chiffres et ils sont gays, c'est vraiment un truc de gamin de 12 ans, tu vois.
Bien sûr.
Et est-ce que ça t'étonne ? En contraste avec l'épisode en Norvège où justement ils avaient l'air d'être hyper forts dans ce qu'ils font les Suédois et d'être un peu méprisants envers ces gamins Roy qui savent rien faire et tout, je trouve que c'est vraiment l'épisode qui fait tomber Madson de ce piédestal là et qui montre que bah il est aussi nul en fait.
Bah,
il est nul en égo,
ils sont nuls, tous.
Et puis même en image publique, tu vois, Shiv elle lui a quand même expliqué l'enjeu de cette soirée et il est au milieu de cette soirée après avoir fait un tweet en blaguant sur l'Holocauste quand même. Il est au milieu de cette soirée à dire tes chiffres sont gays et il voit pas le souci. Enfin, il se rend pas compte qu'il est en train de pas se rendre service à lui-même quoi, et à
mais
son plan.
Je trouve ça génial en fait, vraiment, comme je disais tout à l'heure, de ce parallèle entre à quel point les enfants Roy sont nuls et en fait de découvrir à quel point Madson est nul aussi et qu'en fait leurs erreurs, ils ont les mêmes erreurs en fait qui se reprochent l'un l'autre. Mais en fait, vous faites exactement la même chose.
D'avoir
regardez-vous.
Dis donc tes chiffres, c'est presque dur à croire. Hein.
Vraiment.
Pas très subtil Kendall Roy, mais enfin comme Madson est pire, bah Kendall s'en sort pas mal au final.
Oui.
Il se permet même le luxe d'être là. C'est un peu homophobe. Hein. Oula, attention, je suis Kendall Roy, ami des minorités. Attention, attention. Navo dit, il est nul leur clash, ils auraient dû invoquer Oscar et Greg. Je pense que Oscar et Greg passent un meilleur moment en contre-soirée vapotage de weed. Et alors Martin note, et c'est une des raisons pour lesquelles il y a cette théorie chez certaines personnes que Eba et Madson serait en train de les mener en bateau, c'est que effectivement pendant cette scène, Eba elle est juste à côté de Madson, donc il est sur le bord de la fenêtre, elle est sur le canapé, ils sont très complicité, touchy touchy, ils rigolent ensemble, même on les voit en arrière-plan quand Connor y part, c'est juste avant, on les voit en arrière-plan rigoler et tout, et bah c'est un peu bizarre puisque la dernière fois qu'on les a vus, clairement ça se passait pas bien. Il y a Madame Volovitz qui dit bah Eba elle est sous emprise,
ils sont dans une relation toxique totale en fait, c'est tout, c'est juste je crois qu'ils sont vraiment trouvés, ils se sont bien trouvés l'un l'autre en fait. Voilà, tout simplement.
Oui.
C'est que Eba, en vrai, si elle avait voulu, j'imagine qu'elle aurait pu aller foutre clouer Madsen au pilori avec tous les litres de sang qu'elle a chez elle depuis bien longtemps. Et en fait, elle l'a pas fait, sans doute pour une bonne raison, peut-être financière, mais s'il y a que ça qui compte, pour moi, il y a aussi un jeu entre eux qui s'est installé, quoi, tu vois. Et en fait, tu te fais pas envoyer des litres de sang par quelqu'un.
Il y a l'aspect plusieurs fois.
Oui, c'est ça.
C'est vraiment genre, une fois, c'est déjà rare.
Une fois, c'est bizarre.
Plusieurs fois, généralement, tu prends des mesures de type peut-être pénal contre la personne. Après, entre l'emprise, la raison financière potentielle que t'as évoquée, cette idée que peut-être elle a, bah, psychologiquement, elle va pas très bien, ce qui peut rentrer avec l'emprise. Voilà, on sait pas trop ce qui fait ce chaud et froid où ils s'engueulent et il y a quelqu'un dans il y a Mister Melik dans le chat qui dit c'est une relation de type Tom Shiv. Marty qui dit bah deux secondes avant elle était bouleversée par Madson et là elle est tranquille, elle rigole. Pour moi il y a aussi un truc de c'est du business en fait, enfin elle est aussi là en représentation.
Est-ce que tu couches encore ensemble? Est-ce que tu crois que Madson c'est un bon coup?
C'est pas la même question, hein. Et alors non, parce qu'il écoute des podcasts en regardant les meufs aller et venir sur son haricot magique.
J'avais oublié,
comme
putain.
Nous le savons, grâce à Grégory Hirsch. Donc un amant peu actif. Mais je pense que quand il décide, en fait, il dit, je pense que quand il décide d'être actif, c'est un amant passionné mais trop bizarre, tu vois. Donc non. Et clairement, le consentement, c'est pas sa passion, donc non. Je sais pas si c'est un truc de, on est en train de l'avoir être sous emprise, ou si c'est un truc de, en fait. Là, on est en mode business, on est en train de clasher le mec qu'on veut racheter, etc. Et du coup, bah, je vais être dans ta team. Surtout que quelqu'un disait, Madson, il est meilleur à domicile à l'extérieur.
Oui.
Donc il y a ça aussi, c'est on se serre les coudes, tu vois. On est autant en contre-soirée quand fucking Grégory Hirsch, qui est personne, il est odieux avec moi, je me casse. Autant devant tout le monde, quand il y a Kendall et mon boss qui s'engueulent, bah ouais, je vais avoir l'air d'être dans la team de mon boss. Je sais pas trop. Ouais, elle est peut-être en mode poker face pour se couvrir un minimum. C'est vrai, French Fry, il y a ça aussi. C'est que Madson, il sait que soit elle, soit Oscar a parlé des chiffres de l'Inde. Donc peut-être qu'elle est là, je vais être hyper cosy-cosy avec lui pour pas être soupçonnée. Et en même temps, elle dit que dans 6 mois, dans tous les cas, elle est barrée, donc on ne sait pas.
C'est long, 6 mois. Le doigt coincé dans une porte.
Oui, surtout quand la porte, c'est Alexander Skarsgård qui a des milliards de dollars. Navo dit ce serait un super twist que Madson joue avec la fratrie et qu'il n'y ait ni sang, ni Inde, ni rien. Bah déjà, le truc des briques de sang, il y avait des gens qui pensaient que c'était du
c'était
bullshit
faux.
Pour voir si Shiv, elle le re-raconte. Donc, moi, j'ai tendance à dire, mais aussi parce que je me dis, reste 3 épisodes, que je prends au premier degré ces trucs de les briques de sang, les chiffres gonflés. Je suis là, oui, je pense que Madson, il est chelou et que c'est une arnaque. Et on saura jamais à 100% ce qui se passe entre Eba et lui, tout comme on savait pas ce qui se passait entre Marsha et Logan à 100%, mais c'est, ça nous donne assez d'infos sur lui pour qu'on soit là. Oula. Ok, Shiv, peut-être qu'effectivement tu t'es accroché au mauvais bateau. Et alors, Shiv, Tom, il est fatigué. Il veut aller se coucher. Et Shiv, elle veut pas qu'il aille se coucher, c'est malheur.
Non.
Mais Tom, il est fatigué, il veut se coucher.
Je suis fatigué. Combien de, j'aimerais bien qu'il y ait un montage pour, tu vois, de tous les moments où Tom dit qu'il est fatigué dans cet épisode, ça serait vraiment marrant.
J'imagine le bruit des honest trailers, tu vois, qui comptent genre ding, 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 ding. Et alors, contre-soirée balcon.
Oh là là.
Extrême couple édition. Quid de cette embrouille.
C'est, pour moi, alors, il y a dans ma tête, il y a pas mal de couples toxiques dans les séries. Tu vois, il y en a eu pas mal. Mais pour moi, on est là vraiment dans le plus top du top de ce que j'ai entendu. Dans Prestige TV, là, dans le podcast, il parle aussi du couple Les Sopranos. T'as jamais vu Les Sopranos, mais Tony Soprano et sa femme, c'est un délire. Et effectivement, pour moi, j'avais jamais vu de scène d'embrouille aussi violente dans un couple où non seulement ça se balance des fions, mais ça se balance pas que des fions, ça se balance des vérités.
Tout est vrai.
Horrible.
Quasiment tout est vrai. Pour moi, il y a rien qui se dise qui est pas vrai. À la fois, quand Tom, il lui dit, je suis amoureux de toi, etc., c'est vrai. Et quand il lui dit, t'es incapable d'amour, et quand elle lui dit, t'es avec moi, tu me baises pour mon nom de famille, etc., tout a une part de vérité, quoi.
Et ça dure, c'est long, ça dure 5 minutes, où vraiment ça ne s'arrête pas. Ça, et c'est d'une. En fait, c'est pour moi, c'est terrible parce que c'est exactement la scène qu'on attend entre Tom et Shiv depuis environ le début de la série.
Ouais, depuis 4 saisons, hein. Mais 4 saisons pour en arriver là, c'est beau, hein.
Et.
Ça les vaut.
Ouais.
Et alors, pas pour eux, qui passent un mauvais moment, qui auraient dû se séparer il y a bien longtemps.
Mais j'ai trouvé ça vraiment cool, ce moment de vérité et ce moment de donc en fait vous en êtes là à ça dépasse les scorpions, quoi, tu vois, ça dépasse vraiment les scorpions petit-déj, quoi.
Et ça arrive juste après ce moment de transparence hyper touchant de l'épisode précédent où t'avais l'impression que Tom lui avait été vraiment sincère avec elle en lui disant en fait j'aime l'argent et j'ai envie de maintenir mon statut et tout, et où tu te disais ok, peut-être qu'enfin ils arrivent à se voir l'un l'autre un peu tels qu'ils sont et à s'accepter et à travailler ensemble. Alors je sais pas est-ce que c'est de l'amour ou pas, c'est un grand débat, mais en tout cas à travailler ensemble et à faire un bon partnership. Et là ça vole littéralement, le lendemain ça vole en éclats parce qu'ils se disent encore une fois la vérité, mais ils se disent un peu plus la vérité que la veille, pour le coup.
Oui, comme dit Navo, c'est un soulagement tellement on veut qu'ils parlent, en fait, qu'ils se parlent. Mais ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, ils se disent les choses à moitié, sans vraiment venir raconter ce qui se passe en eux, sans vraiment, en fait, quoi qu'il arrive, montrer de la vulnérabilité, parce que c'est toujours ça
Oui.
Le fond dans toute cette série, c'est qu'il n'y a aucun personnage qui se montre vulnérable à aucun moment. Et là, pour moi, c'est l'un des rares moments de la série où il y a un moment d'humanité, de vulnérabilité, de... Bah, en fait, voilà, tu les veux, mes tripes, les voilà, tiens, elles sont sur le balcon, pff, voilà, quoi.
Et en même temps, c'est au milieu d'une soirée pro où ils se tiennent à 4 mètres l'un de l'autre sur ce balcon dans la nuit new-yorkaise que glaciale, alors peut-être pas en termes de température, mais en tout cas pas du tout chaleureuse. Il y a cette idée de... Alors Matthew McFadden en parle dans le podcast Succession, il dit en gros... Parce que moi, j'avais la question de « mais tout le monde vous entend, non ?» Enfin, c'est vraiment genre... Déjà, c'est pas pro, et aussi genre... Enfin,
ouais,
tout le monde vous entend. Est-ce que c'est du triple vitrage ou pas ?
Triple vitrage.
Et genre, j'avais vu un mème sur Reddit, genre « la personne qui bosse le plus dur dans cet épisode, c'est le double vitrage sur les portes coulissantes de Shiv et Tom. » Et alors, l'acteur qui joue Tom dit dans le podcast « pour moi, on nous entend, on nous voit. » C'est genre, tout le monde sait, quand on re-rentre, qu'on vient d'avoir une engueulade. Ils ont peut-être pas les détails, mais... Tout le monde le sait. Donc en plus, il y a cette humiliation de l'engueulade publique à une soirée pro chez toi. Et en fait, ils ont... Alors certes, ça dure 5 minutes, que c'est long comme scène, mais après, ils doivent immédiatement repartir au taf, en fait. Ils n'ont jamais le temps d'être humains les uns avec les autres.
Écoute, je ne sais pas trop si tu y as pensé, toi, mais il y a un plan vraiment qui se joue pendant 3 secondes où tu as justement Tom qui est au centre de l'image et en fait, la caméra se décale légèrement vers la droite pour qu'il finisse à gauche. Et je me suis dit, est-ce qu'il saute là ?
Ouais, ouais. Ah, mais de fou. J'étais là, attends.
Ouais.
Non, ça va. Je pensais qu'il... Mais je le voyais très nonchalant, tu vois, Spoiler Game of Thrones. Comme Tommen dans Game of Thrones, qui à un moment, il monte sur le bord de sa fenêtre et il saute, quoi. C'est vraiment comme s'il marche, il prenait un escalier, mais il saute. Ouais, ouais, j'ai eu vraiment peur pour Tom. Je trouve ça... Au-delà de l'empathie que j'ai pour le perso et que j'ai pas envie de voir des scènes de suicide le lundi matin, je trouve ça beaucoup plus intéressant pour le personnage qui reste, que l'épisode se finisse sur son visage et que je sois là, je sais pas ce qu'il va faire après ça, mais j'ai hâte de le voir.
Je me suis demandé si c'était une volonté, tu vois, du réel de vraiment décaler la caméra vers le vide.
Ouais.
J'imagine que
oui. En tout cas, on est beaucoup à avoir eu la petite idée de... dans Succession, historiquement, on est plutôt c'est l'eau qui fait peur.
Ouais.
Mais il y avait un peu la thématique. Il y avait un moment où Kendall, ils avaient mis des panneaux sur le toit de Waystar quand il allait pas bien et tout. Donc j'étais là, bon, peut-être qu'il faut arrêter de vivre dans des gratte-ciels.
Et il y a, effectivement, il y a Steve Marty qui dit que il y a cette phrase horrible que Tom dit à Shiv sur le fait que, en fait, elle est incapable d'aimer. Et que sans doute elle ferait la pire mère possible. Donc c'est très bien qu'elle ait pas d'enfant.
Il lui dit, tu es incapable d'amour et peut-être que tu n'es pas une bonne personne pour faire des enfants. Il lui dit pas, tu serais la pire mère du monde. Il lui dit, maybe you're not a good person to have children.
Okay.
Et pas pour faire des enfants avec toi.
Mais donc,
n'es pas une bonne personne. C'est pas bien qu'une personne comme toi ait des enfants.
Et donc il valide finalement le choix que Shiv a fait de ne pas avoir d'enfants avec lui.
Bah non, parce que.
Lui, il le sait pas.
Oui, lui, il sait pas qu'elle est enceinte. Oui, je vois ce que tu veux dire, ouais.
Parce que ils en étaient restés là tous les deux.
C'est ça qui la touche, hein. Elle a pas de répartie.
Je me suis dit, ouais, bah oui.
Là où elle dit, c'est pas très gentil de dire ça, quoi. Ce qui est genre. Putain, vous êtes envoyé des bons coups de scud là.
Vous avez déjà habitué à mieux.
Le scorpion là, il est un peu émoussé, quoi.
Mais tu vois, je me suis dit. En fait, mais elle en est incapable. Mais je me suis dit, ok, c'est le moment ou jamais de lui dire.
Moi, j'ai cru qu'elle allait lui dire là. Hein. Mais elle peut pas lui dire. Enfin, je pense que c'est trop vulnérable.
Pourquoi elle peut pas lui dire ? Enfin, tu vois, pour moi, il y a
aussi.
Fucked up, quoi.
En fait, elle est liée à lui pour toujours, le jour où elle lui dit. Et je pense qu'elle est pas capable de s'imaginer être liée. Enfin, c'est aussi. Ça fait une semaine et c'est la semaine où son daron est mort qu'elle est en train de revenir de mon mari m'a trahi au profit de mon daron et je lui ai pas parlé pendant des mois. Là, elle lui dit tu m'as volé les derniers mois avec mon père.
Oh là là.
Ce qui est un peu genre. Il lui dit non, vraiment, non.
Il lui répond c'est pas de ma faute si t'as toujours voulu avoir l'approbation de ton père et qu'il te l'a jamais donné.
Il lui dit je t'ai envoyé tellement d'approbation et ça a jamais pu te remplir parce que t'es cassé. Et quand il lui dit t'es cassé, l'acteur il fait un truc avec ses mains, genre il mime un truc où j'étais là. Ah, je crois que c'est Navo dans le chat qui disait j'ai remis la scène immédiatement une deuxième fois, j'ai fait pareil.
En même temps, si chacun s'occupait de ses petits problèmes avec son papa et sa maman, peut-être on serait capable d'un peu plus d'amour. JDC, JDR.
Bah, de toute façon, Shiv va pas être capable d'amour avant qu'elle fasse un gros boulot sur elle-même et sur sa relation avec son père et sa mère, parce que, bah, ça le rappelait dans le chat, c'est aussi, sa mère lui avait dit, je pense que t'es pas faite pour faire des enfants et que moi-même j'aurais pas dû en faire, donc ça confirme aussi cette crainte, je pense, qu'elle a en elle, Shiv. Et il y avait une référence à c'est un couple sur un balcon. Et c'est très shakespearien, Succession. Oui. Donc, et bah, dans Prestige TV Podcast, Joanna Robinson en parle comme d'une Roméo et Juliette pervertie, quoi. J'ai trouvé ça très joli. Ouais. Et il y a aussi cette idée un peu de classe. Parce qu'elle lui dit quand même, t'es un pecno, tu vois. Et quand il lui dit, ça va, girl, tu seras toujours à l'abri, genre, ça va toujours aller, il y a aussi cette idée de meuf.
Bah oui.
Girl, tu es quand même maxi-milliardaire, t'es une Roy, quoi, et moi non. Mm. Donc c'est un petit peu dans la belle Vérone, les Capulet ennemis. Qu'est-ce que ça raconte dans le chat ? Navo qui dit « Ils ont hyper bien réalisé l'envie de suicide de Tom. C'est une excellente façon de nous faire comprendre qu'il est prêt à mourir, donc prêt à tuer, donc qu'il va possiblement faire des dingueries. » Ouais, je pense que Tom, là, il va partir en couille dans l'épisode suivant. Enfin, il en a plus rien à foutre, quoi. Il va faire un imp. Et alors, est-ce que tu penses que Shiv va finir par dire à Tom qu'elle est enceinte ? Ou est-ce qu'on va finir la saison et elle lui aura jamais dit ?
Non, je crois qu'elle va pas lui dire.
Ok. Je pense aussi, je me dis, si c'est pas là... Enfin, là, je vois pas quelle meilleure occasion elle aura, quoi.
Ou alors de vouloir lui planter un couteau dans le dos, en fait. C'est-à-dire que là, pour moi, elle était touchée, il l'avait touchée. Peut-être que ça répartit, ça contre-attaque. Ça va être de lui dire qu'en fait, elle divorce, machin, et qu'en fait, il verra jamais ce gamin.
Oui, je pensais que si elle lui dit, je pensais qu'elle allait lui dire là pour lui contre-attaquer, tu vois, ou lui dire un truc. Alors moi, j'étais sur plus horrible, j'étais sur un truc genre « Ok, bah du coup, je vais avorter notre enfant, tu vois, ou un truc comme ça. »
Ah ouais, Dieu
que... Ouais, ouais, okay, mais parce que là, ils en sont à un point où ils se balancent quand même des sacrés scuds.
Non, ça serait encore pire qu'elle l'accouche de cet enfant et qu'en fait, elle lui interdise l'accès à tout jamais. Ce qu'elle, ce qu'elle est très capable de faire.
Oui, ce qu'elle est très capable. De... Alors, suggestion de Madame Wolowitz, lui dire que c'est l'enfant de Nate. Non, lui dire que c'est l'enfant de Greg.
L'enfant de Greg, merci.
Voilà.
La boucle est bouclée, allez hop là.
Full circle, let's go. Bon, pendant que Tom vire tout le monde de chez lui, dans une énergie qui me rappelle beaucoup moi en fin de soirée quand j'en ai marre, franchement, tout le monde devrait faire ça. Quand vous recevez des gens chez vous et que vous êtes fatigué.
Alors, j'ai une expérience personnelle, j'ai vécu une soirée comme ça.
Très bien.
Pas chez toi.
Non,
mais
je me disais, soit j'étais bourré, soit c'était pas chez toi.
À New York justement, chez un ami new-yorkais. Oh. Il a fait venir tout le monde à 18h et à 22h, il était crevé. Il a dit « Allez, ça dégage tout le monde, merci, la soirée est terminée. » Mais vraiment comme ça.
Cassez-vous.
Et tout le monde a pris ses clics et ses claques et s'est barré. J'ai fait « Incroyable ce qu'il est en train de faire. »
L'efficacité.
Ouais.
Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Si vous voulez voir partir les gens, dites-leur « J'ai envie que vous partiez maintenant. » Et ils vous en voudront pas. Regardez, Tom, il a pas plus d'ennemis à la fin que puisque son plus grand ennemi, c'est sa femme. Quid de cette petite scène Frank Kendall qui passe quasiment inaperçu dans cet épisode et qui arrive juste après cette énorme scène, mais qui est quand même hyper importante, puisque c'est One Head, One Crown.
Bah
qu'est-ce
oui.
qui se passe entre Kendall et Frank dans ce vestiaire où décidément beaucoup de choses se passent dans cet épisode ?
Bah oui, Kendall et Logan, voilà. C'est-à-dire que Kendall va potentiellement trahir son frère. Et whatever.
Ah bah, je les adore, mais je suis pas in love them, but not in love with them.
Ouais. Et donc, il demande la complicité et l'aide de son parrain, parce que n'oublions pas que Franck est le parrain de...
Bah, Franck, il le sent, hein.
Voilà. Le parrain de
Kendall. Et il a roulé sa bosse. Il en a vu d'autres, et du coup, il le met au courant du truc de Linda.
Ouais.
Et Franck, pour le coup... C'est le truc qui m'a fait comprendre à quel point c'est grave. C'est la tête de Franck qui est vraiment deg, tu vois. Lui, il pensait, il est comme Carl avec son île en Grèce, là. Il avait bien compté sur la retraite. Et voir Franck, qui est une des personnes sérieuses, des vrais adultes, dire, ah ouais, c'est chaud. J'étais là, ok, donc peut-être c'est chaud pour Madsen. Ouais. Ouais, peut-être c'est très chaud ce qui se passe.
Bien sûr que c'est chaud. Parce qu'il ment sur ses chiffres. Donc, en fait, ça veut dire que son action ne vaut pas ce qu'elle vaut. Bref, tout est trafiqué, en fait, tu vois.
Oui, et mais surtout tu qu'ils vois, ont une grosse... Zuckerberg, il a menti sur ses chiffres, il est encore là, Facebook est encore là, Meta est encore là. Enfin,
non,
c'est dur
ça.
De se rendre compte de c'est quoi les conséquences à
partir
part,
du moment. Alors, à partir du moment où cette info sur l'Inde va sortir, son cours va dégringoler. Et comme il a énormément, je te rappelle qu'il y a énormément d'actions. Tu sais, il y a un échange d'actions qui se joue.
La moitié du prix, c'est en actions.
Voilà. Et en fait, si l'action de Gojo dégringole, forcément, la valorisation peut pas matcher.
Oui.
Tu vois.
Oui, non, je sais que le deal est mort si ça se sait qu'il gonfle ses sous en Inde et que lui, il espère que racheter Waystar, c'est aussi pour ça qu'il est pressé, lui permettra de faire passer la pilule et de moins... Voilà, ça se noie un peu le poisson.
Oui, exactement.
Donc il y a ce double intérêt-là. Et donc Yandel dit à Franck, toi et moi, on fait tomber Madsen, on rachète
Gojo.
Donc il revient à son plan initial.
C'était
son plan, racheter Gojo.
Ah oui.
Non, c'était son plan que Gojo rachète Waystar, pardon. C'est lui qui a dit à Madsen, et si tu rachetais la boîte
alors,
de mon père
d'abord,
à la place.
C'était son plan que Waystar rachète Gojo. Au tout, tout début.
Eh ben, number one boy depuis le début.
T'as raison.
Oui, il voulait racheter Gojo. Après, il a suggéré que Gojo rachète Waystar. Et maintenant, il suggère, et si on pillage the village, reverse Viking.
Reverse
des phrases qui veulent rien dire. Et on rachète Gojo. Et alors, Madame Volovitz rappelle que dans le générique, on voit l'appli Gostar, fusion de Gojo et Waystar. Peut-être que c'est dans l'autre sens, du coup, que c'est à la fin Waystar qui rachète Gojo. T'y crois ou pas?
Bah pour moi, en fait, Gostar... Enfin, pour moi, en fait, le fait que, qu'il puisse créer une autre appli Gostar, ça marchait bien parce que Gojo peut rester Gojo. Et en fait, il peut y avoir une appli Waystar qui s'appellerait Gostar, on s'en foutrait, quoi, tu vois. Mais simplement, les contenus seraient les mêmes au même endroit. Enfin, ça serait pas complètement déconnant, quoi.
D'accord.
Parce que Waystar, si j'ai bien compris, Waystar, c'est quand même une grosse marque.
Oui.
Et en fait, que Gojo vienne dire, bon, en fait, on crée une marque qui est un peu hybride sur le territoire américain, ça serait pas complètement déconnant.
Oui, mais est-ce que tu penses que c'est pas Waystar qui rachète Gojo, du coup?
Peut-être.
Est-ce que tu penses que le plan de Kendall avec Frank, qu'est-ce que... Alors, je sais qu'on n'est pas
Stargo,
des experts du business.
Navo dit Stargo, bon.
Oui, Stargo, pardon. C'est l'inverse. Merci beaucoup. Je sais qu'on n'est pas des experts du business et de la tech, tu vois, mais est-ce que, du coup, plutôt dramaturgicalement, comme dit Jeremy Strong, est-ce que tu penses que Kendall, ça va marcher, il va réussir à faire tomber Madsen, voire à le racheter lui-même, plutôt que de se faire racheter? Genre, pas juste annuler le deal, mais racheter Madsen, enfin, racheter Gojo, et être seul à la tête.
Bien sûr.
Ouais, c'est aussi le destin que je vois pour Kendall.
C'est, et en fait, qu'il pète un plomb et qu'il devienne pire que son père. Qu'il devienne néo-nazi, voilà.
Oh, bah, c'est plutôt Roman qui a l'air parti sur ce ride. Hein. Kendall, il dit qu'il gère les libtards, donc les démocrates débiles.
Ouais.
Mister Melick dit, je pense que ça va finir comme Logan. Kendall va être détesté de ses enfants, en conflit avec son frère, et Shiv, sa petite sœur, qui va mourir. Alors, je pense pas que Shiv va mourir. Mais j'ai vu des gens dire que Roman, c'est la rose de Kendall, c'est la petite sœur qui va mourir. Parce que Roman, pour le coup, le suicide, on n'est pas... Il va pas bien, quoi, le gamin, quoi. Il fait n'importe quoi, il a aucun soutien, il a personne à qui parler.
Wow.
Dans l'épisode sur la montagne avec Madsen, il lui a dit « I'm fucking dead », genre « It's over for me depuis que mon père est mort. Je suis déjà mort, en fait. Je suis là... Roman Roy ?» On pariait plutôt sur Kendall, mais...
Ouais.
Peut-être. Il est vraiment... Ouais, comme Julia, il est tout seul. Hein.
On peut s'imaginer maintenant que Shiv va partir en couille aussi, parce que vu ce qu'elle a pris dans la gueule, là...
Ouais, mais de là à se suicider, je suis pas... Enfin, tu vois, Shiv, il n'y a jamais eu ce truc de
je
vais mourir,
d'accord.
Quoi. Elle est pas assez dans... Elle est dans l'autodestruction, mais elle est plus dans faire du mal aux autres que... Dans ce style-là. Mais écoutez, on a encore trois épisodes pour voir venir.
Mais on saura jamais ce qu'est devenu Rose. Enfin, j'espère qu'on va savoir ce qu'est devenu Rose, en fait, à un moment donné, mais sans doute pas.
Je pense pas qu'on saura. C'est la fin de cet épisode 7 de Succession et du coup du débrief. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas évoquées que tu voulais évoquer?
Non, franchement, bah non. C'était. J'ai hâte de la suite.
Tu vois quoi pour la suite du coup
Bah donc on est bien d'accord que le prochain épisode c'est
America Decides.
Voilà.
Et alors, le créateur de Succession a dit que l'épisode le plus choquant de la saison c'était l'épisode 8. Donc dans la saison où Logan meurt, alors. On peut se dire, il a pas dit que c'était l'épisode 3 pour pas qu'on s'y attende et tout. Mais il a dit que l'épisode 8, c'était pour lui peut-être le plus choquant. Donc, attendons-nous à des dingueries à l'épisode suivant. Quoi.
Pour moi, le truc, il passe très vite fait sur le fait que à Phoenix, en Arizona, il y a
un bureau de vote qui a été attaqué
ou le truc de démocrate, c'est ça de...
Il y a des gens, oui, et peut-être le bureau de campagne.
Quartier général du démocrate
qui
a été attaqué. Et je sais pas à quel point...
Ça fait stresser les gens.
Est-ce qu'il va y avoir une tentative de Trumpisme, d'attaque du Capitole ou je sais pas comment faire ça pour...
Il y avait, je crois qu'on en a parlé avec Alix dans le dernier débrief, de cette idée que j'avais vu une théorie comme quoi au moment de l'élection, en gros, il y aurait des émeutes, etc., que la série nous montrerait des émeutes dans la rue avec, bah là, en plus, on a l'angle de la fille de Kendall qui a été en danger et tout. Donc peut-être que ça nous remettrait le nez sur tous ces gens qu'on vous montre dans leur gratte-ciel et leur jet privé depuis le début. Voilà ce que ça fait à la fin. Moi, c'est pas à ça que je m'attends, parce que je trouve que ça serait trop, trop direct pour Succession de nous montrer à la fin genre et la morale de cette histoire c'est que rappelez-vous qu'il y a un peuple et des gens prolétaires et que ça leur fait du mal les milliardaires. Je pense que c'est une série qui est plus cynique et plus maligne que ça.
Je suis d'accord avec Vince,
mais ça peut arriver.
Fait, ils en parlent trop pour moi.
Ouais, dans mais enfin rappelle-toi mais du nombre de trucs dont ils nous ont parlé, rappelle-toi de la meuf qui faisait une biographie sur Logan, il y a des gens qui faisaient un podcast sur peut-être que Kendall il a tué un peut-être qu'il y a un meurtre enfin une mort bizarre au mariage
c'est
de Shiv. Il y a quand même beaucoup, il y a le FBI qui a Raid Waster, enfin, il y a ce truc de qui a envoyé les donuts et tout, il y a quand même plein de storylines. Donc...
Bah, qui a envoyé les donuts, on le sait.
Bah, on le sait, mais on le sait pas, tu vois. Donc, peut-être qu'il y aura cet angle politique qui va être choquant. Peut-être que le choc, ça va être l'élection de Mencken, qui est quand même un néo-nazi. Peut-être que ça va être un truc avec Roman, qui est le contact direct de Mencken. Peut-être cette histoire de maybe suicide ou mort, je ne sais pas. J'espère pas. Donc nous verrons, mais je suis pas sûre que ça va être une morale sociétale ou politique. Est-ce que tu penses que c'est Mencken qui gagne l'élection?
Ah, vraie question. Bah ça serait marrant.
Ce serait marrant, oui. Je pense que c'est attendu. Du coup, j'ai tendance à me dire ils vont peut-être faire l'inverse et montrer les Roy dans ce truc de ah bah on n'a pas décidé, enfin on décide pas tant que ça, tu vois.
Donc, voilà le communisme qui arrive alors.
Oui,
parce que chaque fois dès qu'il y a un démocrate qui sont là. Oh mon Dieu, les Chinois.
C'est l'armée rouge qui rentre à Washington. Donc je me dis que Mencken c'est un peu attendu et en même temps je serais très intéressante de voir Succession attaquer.
On l'a toujours pas vu.
Non, on l'a toujours pas vu. Il a eu. Je crois qu'il était censé l'épisode des le lendemain de la mort de Logan quand ils sont chez lui. Il y a un chien et le service secret qui viennent. Je crois qu'on était censé le voir dans cet épisode. Ils ont tourné des scènes avec lui, il y était pas. Enfin, ils les ont coupés et je me demande si même dans cette. Enfin, je sais qu'il y a une ou deux fois où on aurait pu le voir, on l'a pas vu. Du coup, on devrait quand même le voir dans l'épisode sur l'élection présidentielle, j'imagine. Moi, je suis team, je pense que c'est lui qui va gagner, parce que ça a l'air d'être un petit peu ce que nous téléphone la série, mais je suis prête aussi à être surprise.
Et puis de voir l'interaction qu'il peut y avoir, justement, entre Ken et ce mec-là, parce qu'on savait très bien que Logan avait un accès direct au président, au Raisin.
Oui,
donc,
The Raisin.
C'est marrant, quoi.
Qu'est-ce qu'on... Attends, j'avais un truc. Oui, quid du discours de Roman aux funérailles de son père? Comment ça va se passer? Tu paries sur quoi en termes... Parce que Roman est parlé en public, on n'a pas trop vu pour le coup.
Non, mais écoute, moi je pars du principe que ça va partir en couille. Voilà, parce que comment tu veux faire autrement? C'est-à-dire qu'il est tellement incapable de... Enfin, son pré-deuil, c'est de la merde, hein, on est bien d'accord. Donc je sais pas trop ce qu'il va...
Il y a vraiment personne qui y a cru à part lui.
Je sais pas trop ce qu'il va dire, je sais pas trop ce qu'il va raconter, mais pour moi, c'est obligé que ça soit complètement dingue.
Ouais, je pense que c'est vraiment la pire décision. Je suis honnêtement étonnée que son frère et sa sœur lui disent « Ok ». Au-delà du fait que c'est compliqué de dire non à quelqu'un de ta famille qui dit « J'ai envie de dire au revoir à papa », tu vois, mais genre, je suis là, mais c'est la pire idée. Enfin, il est clairement en roue libre, mais je pense qu'ils sont tous les deux trop dans leur bail, tu vois. Kendall, il est en mode je suis en train de niquer tout le monde et devenir chef de la compagnie. Shiv, elle sort de son engueulade et tout. Je pense que personne n'y réfléchit trop, mais à mon avis, c'est pas une.
Est-ce qu'il va parler
idée.
De Rose? On ne sait pas.
On ne sait pas. Léa dit, j'espère que Willa va lui écrire son discours comme pour le discours de Mo, l'enterrement de Mo Lester. Connor était là dans la vie. On est. Ensuite, on meurt. Lester est mort. Un jour, ce sera nous. Mais pas aujourd'hui. C'était le discours
c'était
qui dit
génial.
Rien à part des faits. C'était incroyable. Ouais. Alright, donc a priori, épisode 8, élection, épisode 9, probablement funérailles et discours, et je pense épisode 10, quelqu'un dans le chat avait dit l'épisode 10, c'est la succession. Ce qui m'a fait penser à un truc, c'est qu'on a, mais je sais pas si ça se fait à ce niveau de fortune, mais on n'a pas eu cette scène de, il y a un avocat qui vient ouvrir le testament, tu vois. On a eu
oui.
le papier sous libéré. Mais il y a peut-être une scène un peu à la Knives Out, tu vois, où ils vont tous être réunis et il y aura, toi t'as telle maison, toi t'as ci, toi t'as, je sais pas, genre, est-ce que ça se fait à ce niveau d'ultra riche? I don't know, mais on n'a pas encore eu la succession officielle.
Pour moi, le testament.
Des biens de Logan.
Pour moi, le testament, c'était le doc et tout ce qui s'en est suivi pendant ce fameux épisode, quoi.
Oui.
Et ils s'en foutent des maisons.
Mais j'espère qu'on saura un peu ce que Marshall a eu, par exemple, tu vois. Parce que je pense que Elle s'est automise à l'abri, la daronne. Oui. Vraiment, elle est très très bien.
Sûr et certain.
Hâte de voir la suite. Navo dit dernière image, Ken s'assoit à une table de réunion de dos, comme dans le générique.
Oui.
Écoutez, il y a de bonnes chances.
On l'espère, tous.
On a fait le tour ?
Oui.
Merci beaucoup Fabrice
Merci
d'avoir été
toi.
Là. Merci à toi. Je t'ai pas demandé en début d'émission, t'as sorti un contenu que tu veux pousser ? T'as une petite actu, t'as quelque chose ?
Écoutez, j'ai justement interviewé, pas plus tard que la semaine passée, dans Histoire de Daron, une jeune fille qui a perdu son père quand elle avait 24 ans et qui en parle de façon très honnête. Donc si jamais ça vous intéresse le deuil, on est en plein dans le thème. Oui. Alexandra, qui est venue dans mon podcast pour venir me raconter son rapport à son papa et son rapport à son papa mort, parce que c'est des doses. Voilà. Si ça
Fun
vous intéresse.
Times. Bah, écoutez oui. les podcasts de Fabrice.
C'est bien la mort, ça fait partie de la vie aussi. Nous
Tout
l'oublions
à fait.
Pas.
Oui. Et dans tous les cas, ça arrive, donc autant y être un petit peu préparé en faisant des pré-deuils et en écoutant.
Des pré-deuils et en ayant le meilleur consulting.
Est-ce que tu penses que Kendall Roy, il achèterait ta formation à l'interview? Pour soutenir des entrepreneurs du
J'espère
web.
Bien.
Merci ouais. beaucoup Fabrice, merci le chat
merci
d'avoir
Mimi.
Été là.
Merci
les auditeurs et auditrices du podcast. Moi je vous donne rendez-vous, alors bien sûr la semaine prochaine avec Fabrice pour Succession et maybe not jeudi pour Coral Island, mais vendredi pour Zelda c'est sûr. Abonnez-vous à mon compte Instagram par exemple et mon compte Twitter pour ne rien rater des actus. Merci d'avoir été là tous et toutes. Merci Navo de passer, ça me fait plaisir. Bye bye.
Des bisous, salut tout le monde.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, pensez à lui mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre appli préférée. Vous pouvez retrouver le reste de mes contenus audio sur le flux Mimi Hegel, mais en podcast, m'écouter avec la créatrice de contenu Marie Kigaï chaque mardi dans le podcast BFF et me retrouver tous les dimanches en compagnie de Fabrice Florent dans notre podcast cinéma Le Film Club. Pour les récaps rigolos de séries, ça se passe sur Patreon. Tous les liens sont dans la description. Je vous souhaite une très belle journée et un grand merci à Valentin Nortier pour le générique.